Le Food Time Show. Food Time Show. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans le Food Time Show. Tous les lundis entre 19h30 et 21h, c'est l'émission des supporters grenoblois puisqu'on débriefe du football grenoblois et notamment du GF38. Bien sûr, comme toutes les émissions, je suis accompagné. Ce soir, nous avons le retour de notre Suède nationale qui était avec nous. Bonsoir ma Suède, comment ça va?
Salut à toutes et à tous, salut les copains. Ça va bien mieux
ou pas?
Ça va bien mieux. Merci à tous pour vos petits messages, tout va bien, vous inquiétez pas, c'est impeccable, j'ai repris la forme et donc je suis content de revenir débriefer avec vous et parler GF38.
Bon, t'as pu un peu trop poser ma Suède?
Ouais, il fallait que je me repose de toute façon, donc voilà, ça y est, c'est fait. Et maintenant je suis au taquet, 100%, 100% Food Time Show, 100% l'émission des supporters grenoblois, ouais, on est là. Et on y va.
C'est une bonne chose. Avec nous, on a aussi Malek Chérad qui est avec nous.
Bravo, bon, Malek Chérad. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous.
Comment ça va, Malek?
Ça va, impeccable. Toujours un plaisir d'être avec vous. Et le retour de la Suède me fait chaud au cœur. Ça, il nous manquait.
C'est gentil. Bon, il va te mettre la main sur la cuisse, ça va être réglé.
La santé avant tout, donc il va bien mieux. Donc il a bien récupéré.
Exactement.
On est content de le récupérer.
C'est super important. Vous le savez, on va parler aujourd'hui un gros programme hein, puisqu'on va revenir sur les scores des équipes du GF38, notamment des féminines. On a quelques retours, mais aussi le match à Nîmes. On va parler aussi des U17. Voilà, on va parler de tout ça. On va parler également avec Fred Souget du joueur du mois. Qui sait qu'on pense qui peut être joueur du mois de janvier. On reviendra également sur le mercato parce que Massuède il voulait nous donner aussi encore 2-3 infos. Puis ça a bougé aussi dans les dernières heures du mercato, bien sûr. On parlera également du match à Vierzon, du match de mercredi, ce 8e de finale de Coupe de France.
J'ai eu des retours justement d'équipes qui ont affronté Vierzon justement.
Wilfried Dalma que nous aurons dans la stade d'Arvalo a joué à Vierzon si tu ne savais pas.
Incroyable.
Il a joué à Vierzon, donc on pourra peut-être lui demander aussi quels sont. Il a connu ce club, je crois, même il n'y a pas si longtemps que ça, hein, peut-être en 2019, il me semble. Il pourra nous dire quelles sont les ambitions du club, quel type de club auquel nous allons avoir affaire. En tout cas, c'est un gros programme. On va surtout ouvrir tout de suite notre page GF38. Vous êtes bien dans le Food Time Show. On est sur News FM. À tout de suite.
Ensemble avec le GF38.
Tous ensemble avec le GF38, toujours sur ce son de Rapace, bien sûr, le GF38. On va démarrer avec l'honneur aux filles, l'honneur aux féminines qui se sont fait tenir en échec 3 partout après avoir mené 3-1. Ma Suède.
Quel dommage.
C'est une contre-performance en termes mathématiques, en termes de score. Il y avait un beau contenu, mais malheureusement, elles n'ont pas été les seules à décider du sort.
En termes de jeu, on peut dire que c'est dommage, vraiment, parce que tant elles ont, je vais pas dire baladé, mais tant elles ont tenu
Montauban, hein,
tenu Montauban qui était 2 places devant elles, Montauban 4e, le GF38 6e avant cette journée. Elles ont tenu tête, mais alors haut la main justement aux joueuses de Montauban, elles ont dominé tout le match. Mais elles ont malheureusement craqué. Elles ont craqué, notamment à cause de décisions arbitrales très très litigieuses. Donc beaucoup de déceptions dans les rangs du GF38 chez les femmes. On a eu quelques retours, voilà justement sur la physionomie du match. Nos grenobloises menaient 3-1 face à une équipe de Montauban qui tient quand même la dragée haute, on va dire, dans ce championnat, comme je le disais, avec une quatrième place. Mais les espoirs grenoblois sont vite tombés à l'eau lorsque l'arbitre a décidé de donner ce penalty pour le 3-2 et carton rouge pour les grenobloises.
Sévère apparemment.
Alors moi j'ai les deux sons de cloche. On me dit sévère d'un côté, pas sévère de l'autre. Il y a un pied levé dans la surface de réparation de la part de notre joueuse qui se met au niveau de la hanche. Elle touche bien le ballon en premier lieu, mais le pied vient se mettre au niveau de la hanche. Donc je dirais 50-50. Lorsque c'est comme ça, c'est difficile de pouvoir se mettre à la place de l'arbitre. c'est toujours délicat, surtout que la joueuse de Montauban joue très très bien le coup puisqu'elle se met à hurler hein, carrément hein, on va pas se très très vite relever après d'ailleurs. Voilà, mais c'est surtout les décisions arbitrales qui ont été un peu délicates. Elles ont été très délicates, notamment au niveau de, des arbitres de touche. J'explique la situation. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un hors-jeu. Les joueuses ont demandé un hors-jeu à un moment donné sur une action claire, nette et précise, en sachant que Montauban marque son but sur un hors-jeu.
Déjà, ça fait
déjà beaucoup. Et la deuxième fois, une de nos joueuses réclame un hors-jeu au niveau de l'arbitre de touche, et l'arbitre de touche lui dit clairement ferme ta bouche.
D'accord.
Voilà.
Donc l'arbitre parle comme ça, d'après ce que j'ai su, arbitre tous garçon, les, très jeune.
Tous les témoins, voilà. Tout le monde est témoin au bord du. Alors que ce soit sur le terrain et autour du terrain. L'arbitre s'est très clairement manifesté avec des mots de ce type, avec des mots de ce type-là, qui pour moi n'ont rien à faire dans la bouche d'un arbitre. Voilà.
Ni d'un joueur d'ailleurs. Hein.
Non, ni d'un joueur.
Si un joueur dit ça, il prend rouge. Hein.
Bah voilà.
Mais c'est pour ça.
Non, mais c'est là. Un joueur, comme le dit Malek, un joueur, il prend rouge direct. Là, l'arbitre de touche, lui, prend rien du tout. Parce qu'au final, il n'y aura même pas de rapport de fait. Puisqu'après, dans la physionomie du match, et comme ça tourne, c'est pas dans l'intérêt des Grenoblois et du staff grenoblois de venir porter une réclamation, puisque notre joueuse risque de se prendre 3 matchs déjà pour son geste, et en sachant les pépins qu'il y a au niveau de la défense centrale du côté de nos Grenoblois, c'est assez compliqué.
On peut pas se permettre.
Voilà, en sachant que Montauban marque le 3e but à la 96e minute de jeu, et en sachant que au niveau des arrêts de jeu, il n'y a pas eu de blessés, il y a eu très peu de changements. Les 6 minutes d'arrêt de jeu paraissent complètement
Ça fait beaucoup quand même.
Ça fait un peu beaucoup pour un seul match. Mmh. On le rappelle, hein, Montauban qui était
quatrième.
Ça a permis, je sais pas ce qui s'est passé du côté de Nice et comment Albi est allé gagner à Nice, ce qui permet à Albi de passer
devant nous.
Mmh. Donc là, on est dans la mauvaise partie du tableau, Masfuède, hein, faut le savoir. Les 6 dernières descendent. Mmh. Là, pour l'instant, on est dedans. Alors, attention, il y a pas feu.
Alors, on a un match en retard.
On a un match en retard par rapport à Albi, mais pas par rapport à Thonon qui est juste devant. Donc ça, c'est faut le signaler aussi. Thonon Evian a 17 points à 11 matchs, Albi a 15 points à 12 matchs, et nous 14 points à 11 matchs. Donc c'est vraiment Albi la target, quoi.
De toute façon, on le savait, hein, avec ces 6 descentes, que ça allait vraiment être compliqué. Le plus frustrant, en fait, pour nos Grenobloises, là, c'est tout simplement parce qu'elles dominent clairement le match et que sur des décisions. C'est comme on me disait aussi, j'ai de la bouche d'une joueuse qui me disait attention, on n'est pas d'accord avec les décisions arbitrales, mais on s'est procuré des occasions, et il y a 2 occasions franches qu'elles doivent mettre au fond et qu'elles ne mettent pas au fond aussi.
Ça fait partie aussi. J'allais le dire, ce genre de match-là, normalement à 3-1, on dit toujours que le break il est plié et tout ça, mais on n'est pas à l'abri d'un but, et voilà, c'est ce qui s'est passé. Si on peut mettre le 4e, je pense qu'on aurait scellé définitivement la victoire. Après, c'est les aléas c'est de l'expérience qui rentre aussi. C'est comme on va en parler plus tard pour les U17 donc c'est de l'expérience qui rentre. C'est des points pour moi gaspillés parce que on doit avoir 2 points de plus. Après, il y a des faits de jeu qui sont là, donc à nous de nous adapter, aux joueuses de prendre de la bouteille. Aux joueuses les plus expérimentées aussi de faire le relais aussi. Là, c'est important que, par exemple, comme le capitaine ou autre, une joueuse expérimentée qui vienne, qui calme l'affaire, qui essaye d'arrondir les angles. Mais c'est vrai que d'après tes dires et les témoins, qu'un arbitre de touche, homme ou femme, hein, peu importe, parce que là, on parle des féminines, et ce genre de propos, je trouve ça vraiment pas professionnel du tout, et que ça a rien à voir, ça a pas place, ni c'est pas le lieu, quoi. Ça m'est déjà arrivé dans ma carrière qu'un arbitre m'insulte.
Ça t'est arrivé, Malek?
Ouais, ça m'est arrivé en Ligue 2, je crois. C'était à Lorient. C'est Monsieur Fraise, je me rappelle. Le même genre de propos, mais un peu plus. Ferme ta gueule, quoi. Tu vois, quand t'as un arbitre en face de toi, il te dit Monsieur Chérad, ferme ta gueule.
Parce que j'allais dire Monsieur. Ouais. À la limite, on l'excuse. Monsieur Chérad, ferme ta gueule.
Donc quand je vais au rugby, on entend tout ce qu'ils disent, et comment les joueurs, pourtant, ils se foutent dedans. Hein. J'ai encore vu là les tournois de destination, et le respect qu'il y a entre les joueurs et les arbitres,
c'est incroyable.
Je pense que ça ferait pas de mal au très haut niveau de, que c'est, qu'on puisse entendre ce que les arbitres disent.
Je suis entièrement d'accord.
Donc, voilà, parce que là, il y a des dérives qui sont. Je trouve ça pas professionnel du tout. Et c'est vrai qu'il y a de quoi péter un câble, quoi. Et moi, ça m'a fait sortir de mon match. Ça m'a fait, presque je prends rouge.
Mais après, tu trouves ça injuste.
C'est ta parole. Après, on est d'accord. On doit accepter les décisions de l'arbitre à condition qu'il y ait un respect mutuel. On demande du respect des joueurs envers les arbitres, mais il faut que ça soit aussi dans l'autre sens aussi, pour que tout se passe bien. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a certains arbitres qui veulent leur part de popularité ou d'autorité. Je ne sais pas dans quel angle pour le prendre, mais je trouve ça vraiment aberrant.
Bah écoute, en tout cas, c'est triste.
Bien dommage de perdre ces deux points aussi.
En sachant qu'on, de toute manière, ça va être très clair, on va avoir une vérité qui va être dès la semaine prochaine, puisque dès
samedi.
Dimanche 13h du côté d'Albi, puisque le GF 38 se déplace à Albi. Donc,
mais là, t'as pas le droit à l'erreur.
T'as pas le droit à l'erreur, en sachant que tu joues ton match de retard le 5 mars face à Iser. Iser qui est aussi dans la charrette. Là, sur les trois prochains matchs, il n'y a pas de droit à l'erreur.
Non, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Après, le plus dommageable, comme je disais aussi, c'est que là, elles sont en pénurie de défenseurs. Là, en l'occurrence, il y a Chloé Froment qui est blessée gravement au niveau des ligaments croisés. Du coup, Elsa Domingou qui du coup sera absente certainement quelques matchs également. Il va rester que Romane Pilot, notre grenobloise qui entre guillemets la seule rescapée en défense centrale, et qui sera certainement épaulée par la nouvelle joueuse dont j'ai peur de décorcher son nom.
Qui
vient d'Haïti, Medellin, je ne sais plus comment. Elle m'excusera pour, justement, je veux pas faire de faute. Donc voilà, ça sera son premier match et donc on verra ce que ça donnera. En tout cas, on croit fort en nos grenobloises et on leur souhaite beaucoup de courage.
C'est clair.
C'est tout ce qu'on souhaite. Allez, on va passer au résultat des U17 de Selim Derbal. C'est la douche froide, Massuède, Malek. Dans le choc de bas de tableau face à Saint-Priest, on s'est incliné lourdement 4-1.
Ouais, très dur. Très dur à tout point de vue, au niveau comptable déjà. Concurrent direct au maintien, lourde défaite.
C'est ça. Ce que j'allais dire.
C'est rare.
La défaite est lourde.
Ouais, parce que tu perds. Avant, on était toujours dans. Oui, on perd contre Monaco, mais c'est 2-1. On perd contre Nice, mais c'est 2-1 aussi. On n'est pas loin. Tout ce que tu veux. Là, perdre 4-1. Après, j'ai pas vu le match, évidemment. Là, ça va être dur de se relever. On avait tous espoir. Mais là, plus les journées elles passent, plus ça se complique, plus on rentre dans le ventre mou du classement. Et j'ai peur pour que nos U17 terminent le championnat en roue libre. Et, voilà, je l'espère pas. Après, on n'est pas à l'abri d'un regain, d'un esprit revanchard, tout ce que. Mais là, ça commence à faire beaucoup qu'on n'a pas gagné, quoi.
Ce qui fera notre force, c'est ce qui peut nous permettre de se sauver, c'est de jouer avec le couteau entre les dents. Il n'y a que ça qui nous sauvera aujourd'hui.
Il ne faut pas l'avoir sur la gorge, ça c'est sûr.
Non, mais il faut être honnête.
Depuis le début de saison, ils savent dans quelle situation championnat a démarré. Donc ils savent qu'ils sont en ces matchs-là. Je ne sais pas comment ils l'ont abordé. Je pense que Saint-Priest.
C'est ça.
On se met à la place de Saint-Priest. Ils reçoivent un concurrent direct, ils veulent les taper. Et c'est ce qu'ils ont fait, malheureusement. Après, je crois qu'il y avait ton frère au match, je crois, Melvin, non ?
Mon beau-frère.
Ton beau-frère. Donc, il a vu le match, il a dit
il m'a fait un retour. Il m'a dit qu'il n'y avait pas photo.
Une
équipe de Grenoble vraiment en difficulté. Et Saint-Priest qui a fait effectivement un gros match.
C'était un match de fou, logiquement. Tu savais pertinemment que celui qui allait perdre, il allait
dans la merde. C'était les deux derniers. De toute manière, la Saint-Priest est passée devant Grenoble. Oui. Donc, moi, mon beau-frère, de ce qu'il me dit, il m'a dit effectivement que c'était un match complètement à sens inverse.
On va croiser les doigts pour que justement nos grenoblois arrivent à s'en sortir, que Salim essaye de trouver les mots pour.
Là, ça va être compliqué.
Pour que ça soit. Il faut être honnête, il faut dire ce qui est, ça va être compliqué. Si nos jeunes joueurs là, nous écoutent, j'aurais tout simplement envie de leur dire que rien n'est perdu et qu'avec de la motivation et surtout beaucoup d'envie et beaucoup de fierté, surtout, ils peuvent s'en sortir, qu'ils ont une chance incroyable de jouer dans une poule comme celle-là et qu'il faut qu'ils y arrivent. On connaît Salim Derbal, on sait qu'il fait le maximum pour son équipe. Après, je pense que s'il y a un mal quelque part, le mal n'est pas malheureusement que dans que dans cet effectif-là, entre guillemets, on le sait très bien, on ne va pas reparler de l'histoire du centre de formation et tout, mais aujourd'hui, je pense que c'est difficile d'avoir des joueurs au niveau national. Et voilà, et on en parlera certainement plus tard, mais voilà, en tout cas, on croise les doigts. Et...
En sachant que, bon, dès la semaine prochaine, hein, on reçoit l'OGC Nice qui vient d'aller taper Monaco et qui vient de leur passer devant et qui prend la deuxième place. Donc, ouais, autant vous dire que ça va pas être. Pour essayer de se relancer, ça va pas être simple.
Ouais, après, on n'est pas à l'abri d'un exploit. Il suffit qu'un petit déclic aussi. Par exemple, tu tapes Nice chez toi. Sur pas un concours de circonstances, mais voilà, sur un très bon match ou quoi que ce soit, et la dynamique repart. Mais personnellement, je vais être honnête, j'ai du mal à y croire, surtout qu'on est dans une spirale qui est... Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné un match, quoi. Donc quand tu pars comme ça, tu sais que t'as un complexe d'infériorité déjà à la base, plus en plus, les résultats, ils s'enchaînent pas dans ton sens. C'est compliqué à trouver les mots. Je souhaite bon courage à Salim parce que franchement, d'avoir une saison comme ça, c'est même si on joue des belles équipes et que les joueurs prennent de l'expérience et tout ça, je trouve que pour trouver les mots pour un coach ou quoi que ce soit, là, ça y est, ils ont plus rien à perdre, quoi. Qui se lâchent, qui essayent d'avoir d'autres valeurs qu'ils ont peut-être perdues, essayer de moins jouer au ballon, essayer de plus de rentrer dedans, parce qu'en général, les centres d'information, c'est des équipes qui ça joue bien au foot, donc essayer de jouer avec nos armes, et voilà, essayer de rivaliser avec des équipes, et pourquoi pas l'exploit contre le GC Nice.
Pour clôturer, on souhaite bonne chance à Selim Derbal et son équipe U17. Ouais. La réserve n'a pas encore joué. Malheureusement, Villefranche s'est imposée dans son match en retard et Villefranche prend la tête en R1. Le GF 38 qui rattaque ce week-end du côté samedi de Chassieux-Dessine. Un déplacement aussi périlleux. Allez, on va tout de suite dans le Foot Time Show élire notre joueur du mois avec Fred Souget. A tout de suite.
Tous ensemble avec le GF 38.
Bonsoir Fred. Fred de Métro Sport est avec nous. Comment vas-tu, Fred?
Salut messieurs, ça va très bien, merci.
Salut Fred.
Tout va bien pour toi, Fred?
Tout va plein. En plus, les résultats sont plutôt pas trop mal depuis quelques jours. Donc un peu inquiet sur le volet GF 38 à la reprise, mais ça a l'air d'aller mieux ces dernières semaines, non, parce que ça a beaucoup enchaîné, donc ces derniers jours. Hein.
Effectivement, ouais. ces derniers jours, on reviendra plus tard dans le débrief justement de cette victoire face à Nîmes. Fred, comme on a l'habitude de le faire chaque mois avec Métro Sport en association, on va donc parler du joueur du mois, Fred. Est-ce que tu peux nous rappeler les modalités, comment les personnes peuvent aller voter notamment?
Ouais, alors déjà, ça sera le joueur des mois cette fois-ci, puisque ce sera le joueur du mois de décembre et du mois de janvier.
C'est vrai.
Pourquoi? Parce qu'en décembre, avec la trêve Coupe du Monde, il n'y a eu que deux matchs et deux matchs très rapprochés à la toute fin du mois. Donc, on avait décidé de coupler un peu les mois de décembre et de janvier. Donc, c'est 8 matchs au total qui sont pris en compte entre la Coupe de France et la Ligue 2. Et comment est-ce qu'on vote? Alors, on a fait une présélection avec vous, les gens de Métro Sport et les gens du Foot Time Show. Les gens du Foot Time Show, pardon, en premier, les gens de Métro Sport. On a donc trois joueurs qui ont été présélectionnés. Les trois joueurs, c'est le défenseur Adrien Monfray, qui est un habitué de ces élections de joueurs du mois. C'est l'attaquant Mathias Faeton, qui a déjà été dans les présélectionnés, pardon, une fois, si je ne m'abuse. Et c'est un petit nouveau, mais c'est un petit nouveau qu'on connaît bien, qui s'appelle Jesse Bonnet. Et donc, c'est très simple pour aller voter. L'article est déjà en ligne sur grenoblefoot.info. Il y a un sondage, en fait, vous répondez dessus, vous cliquez sur le joueur que vous choisissez. Et ce sera bien évidemment partagé sur les réseaux sociaux. Le Foot Time Show sera tagué, donc vous aurez aussi accès, vous, directement au lien direct. Et le vote s'arrête, je crois que je l'ai mis jusqu'à dimanche 19h. Donc, d'accord, on a quand même quelques jours pour élire le joueur des mois de décembre et de janvier.
Ça va. Du coup, on va rappeler, du coup, pour nous, en tout cas, ceux qui sont présents aujourd'hui, ce qu'on a dit. Pour toi, Fred, hein, si je dis pas de bêtises, t'as mis Jesse Bonnet, déjà, en numéro 1, Loïc Nestor en numéro 2 et Mathias Faeton en numéro 3.
Exact, et moi je voudrais rajouter que pour moi c'est une petite cuvée, j'ai pas trouvé les Grenoblois sur la durée incroyablement bons. Alors il y a eu du très bon comme le match à Guingamp, on a eu quand même beaucoup de moyens et voire du très 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 oubliable sur la période, notamment les deux matchs de décembre qui étaient vraiment pas bons. Le match de QM il est pas terrible non plus, le match à Plabennec en coupe c'est quand même pas la folie même si Grenoble s'est qualifié, donc on est vraiment sur une petite cuvée. Pour moi j'ai connu des mois meilleurs pour cette élection là, mais oui tu as bien rappelé mes trois choix.
Melvin, du coup, Mathias Failleton numéro 1, Adrien Monfray numéro 2, Brice Maubleu numéro 3, c'est bien ça?
Effectivement, c'est bien ça. Je pense que Failleton a vraiment fait des choses qui nous ont intéressés, qui nous ont montré qu'il répondait entre guillemets aux attentes qu'on avait. On l'a beaucoup critiqué en début de saison. En tout cas, on avait alerté sur le fait qu'il n'était pas aux attentes. En tout cas, là, il m'a fait plaisir. Adrien Monfray, j'ai envie de dire, c'est presque une habitude. Hein. C'est la régularité ainsi que Brice Maubleu parce que encore il est présent, parce que il nous sauve des situations bien complexes. Jesse Benet effectivement, mais pour moi c'était trop tôt. J'espère que ça sera peut-être le joueur du mois de février. En tout cas, c'était un peu trop tôt pour moi.
En tout cas, il est bien parti pour.
Mais en tout cas, il est bien parti.
Et toi, mon Malek, du coup, Mathias Failleton numéro 1, Jesse Benet numéro 2, Adrien Monfray numéro 3.
Ouais, même si Failleton haut la main pardon, haut la main pour moi. Je pense qu'il marche. Il était sur un nuage là ces derniers temps. C'est vrai que je vais rejoindre Fred au mois de décembre. Pas que lui, mais toute l'équipe a un peu sombré durant reprise les deux premiers matchs. Mais ensuite, il est monté en puissance. Et moi, il me plaît beaucoup au niveau physique. Je vois qu'il a des jambes. Il répète les efforts. Il rechigne pas. Mmh. Qu'on le mette à gauche, qu'on le mette dans l'axe. Et surtout, il est décisif. Il a marqué, je crois, deux ou trois buts qui sont super décisifs. À Guingamp, il fait un match de fou. Après, il est souvent à l'image de l'équipe, donc voilà, amplement mérité pour moi en numéro 1. En numéro 2, je mets Jesse Benet, parce que voilà, même s'il n'a pas trop joué, je pense que ça va être un joueur qui va être souvent dans notre classement. Je l'espère pour lui, voilà. Et numéro 3, j'ai mis, si je me souviens bien...
Monfray.
Et Monfray...
Taille patron.
Ouais, mon frère, il s'est fait mal aux adducteurs à Nîmes. J'espère qu'il va vite récupérer pour mercredi.
Des infos, peut-être, Fred, sur mon frère d'ailleurs, sa petite blessure, sa petite alerte.
Non, je l'ai vu sortir effectivement. Ça n'avait pas l'air très très grave comme ça de prime abord, mais j'ai pas plus d'infos que ça.
Ouais, donc voilà, enchaîné à son jeune âge, 3 matchs en l'espace de 12 jours, je pense que les organismes, ça siffle un peu. Mais mon frère, voilà, impérial, habitué à notre podium aussi. Je pense que c'est tout à fait logique que je le mette troisième.
Et du coup, pour finir, donc le mien, Mathias Failleton, numéro 1, Jesse Benet, numéro 2, et j'avais envie de mettre Franck Bambock en numéro 3.
Et écoute, j'allais en parler, je pense que ça fait partie des satisfactions des derniers matchs.
Alors,
Franck Bambock qui est régulier, qui monte en intensité, qui monte en volume de jeu, en technique aussi.
Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que je trouve que Franck Bambock, à côté de Jesse Benet, c'est plus du tout le même joueur. Je m'explique. Bambock, dans l'intensité, dans le physique, va répondre présent dans un rôle de numéro 6, pur et dur. On lui demande pas un vrai 6 à l'ancienne, on lui demandait pas d'être technique ou autre. Et là, le fait d'avoir Jesse Benet dans un rôle de relayeur, dans un rôle de plus de 8, eh ben justement, lui apporte une crédibilité qu'il n'avait pas avant, puisque Jesse Benet est aujourd'hui capable de faire la passe et de relayer entre la défense et l'attaque. Et tout simplement, je trouve que Franck Bambock, du coup, sur ses derniers matchs, mérite amplement d'être dans un top 3. Voilà. Et on l'a souvent critiqué, et je trouve que ça avait le mérite d'être noté. Voilà.
Un mot à dire sur Franck Bambock, Je sais que t'as été. Non,
pas moi.
Ouais, Malek, parce que je sais que. Non, mais parce que même Malek a reconnu que c'est sur cette. Voilà.
J'ai été très critique envers ce joueur. Après, j'ai rien contre lui, attention, je suis sûr que c'est une personne admirable. Moi, je juge juste ce qu'il fait sur le terrain. J'ai trouvé ça très pauvre techniquement les 6 premiers mois. Je m'attendais, en plus, c'est un joueur qui joue tous les matchs, comme mon frère, c'est un titulaire tout le temps, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et c'est vrai, là, je rejoins la Suède, ces deux derniers matchs, il m'a vraiment plu. Mais bon, je vais pas arrêter de le tailler parce que plus je le taille, plus il est bon. Donc, et en plus de ça, il devient buteur. Bon, du tibia, mais il devient buteur. Premier but, je suis content pour lui.
Ça compte.
Oui, bien sûr que ça compte. Je rigole, même si c'est du tibia. Non, mais blague à part, Je rejoins la Suède dans le fait où quand on le décharge du jeu offensif, il est beaucoup plus intéressant. Il a moins de responsabilités au milieu de terrain. C'est Jesse Benet qui prend le jeu à son compte, comme un peu faisait Axel Ngando à un moment. J'ai hâte de voir ces trois-là ensemble, d'ailleurs. Si on a des nouvelles d'Axel Ngando, je sais pas, Fred, si tu as des nouvelles, parce que il me manque énormément, ce joueur. J'aime le voir jouer, malgré
qu'il soit... Il avait toujours pas repris ces derniers jours, donc je pense qu'on va encore attendre un tout petit peu.
Et Manu Pérez non plus?
Il manque à tout le monde Manu Pérez non plus, donc vu que ça va enchaîner là encore deux fois cette semaine, je pense pas qu'on les voit cette semaine. J'espère que pour le match d'après, ils seront opérationnels. Parce qu'effectivement, c'est deux touches techniques en plus. Alors Axel Ngando un peu plus que Manu Pérez, mais je pense que Manu Pérez dans une rotation peut faire du bien, parce que ouais, si on continue de pouvoir en tout cas espérer vivre une fin de saison avec beaucoup d'émotions dans deux compétitions différentes, et ben il va falloir on va avoir besoin de tout le monde en fait, et faire tourner un peu de temps en temps, comme le disait Malek, Frank Bangbok, il termine quasiment tous les matchs avec
des changements.
D'ailleurs pour enchaîner, mais franchement, ça tire un tout petit peu.
On peut dire ce qu'on veut, mais franchement, il fait le boulot. J'ai souvent été critique, je me répète, mais
moi également.
Vraiment, parce que on l'a tous été, mais elles étaient justifiées. Je suis vraiment désolé, mais c'est ce que vraiment les matchs que je voyais. Et donc, on est là pour ça. Mais là, c'est vrai que ces deux derniers matchs, vraiment, il m'a surpris. Après, c'est pas le joueur qui va dribbler des jeux. On lui demande pas ça. Mais au moins, moi, ce que j'attendais de lui, c'est vrai que son travail défensif, on l'a toujours loué. Par contre, c'est pas un tricheur. Mais après, quand j'ai vu qu'il y avait deux clubs espagnols sur lui au mercato, je sais pas si c'est un fake ou une vraie info.
Non, c'est une vraie info.
Ok, donc c'est que voilà, s'il intéresse des clubs espagnols, c'est pas pour rien. D'ailleurs, il a reçu quelques critiques sur des commentaires un peu bizarres quand la publication a été faite. Bref, mais c'est vrai que Jesse Benet l'aide beaucoup niveau défensif, l'aide beaucoup au niveau de la possession de balle quand on va vers l'avant. Et c'est là où ça pêchait vraiment, par son manque de technicité, on va dire. Et plus il prend confiance, plus il joue. Et franchement, il a du mérite. Pourquoi? Parce qu'il lâche pas et parce que il fait tous les matchs. Et physiquement, surtout en Ligue 2, ça doit être vraiment dur. Et lui, il tient le coup. Donc c'est tout à son mérite.
Fred, on peut...
Ouais, je peux rajouter quelque chose sur Bambox.
Bien sûr, on allait te demander ton avis
sur Bambox, surtout.
Bah parfait, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Moi, très sincèrement, si le match de vendredi avait été en janvier, j'aurais mis sur mon podium. Alors, on verra si en février, s'il continue d'enchaîner, mais ça fait quelques matchs que je le trouve pas mal. Je suis tout à fait d'accord sur ce qui a été dit par rapport à sa complémentarité avec Jesse Benet. Je trouve aussi qu'avant la trêve Coupe du Monde, avant même l'arrivée de Jesse Benet, donc, et c'est quelqu'un qui visiblement travaille beaucoup en dehors des séances quotidiennes avec le GF 38, qui travaille individuellement.
Avec un coach sportif.
Physiquement, ça paye, voilà, avec un coach personnel, effectivement. Et voilà, c'est le genre d'état d'esprit que j'aime bien, en tout cas, il se donne les moyens, lui, d'être performant. Et effectivement, sur ce que vous avez dit, il monte en puissance. Et les deux derniers matchs, il avait déjà été très bon contre QRM. Et là, son but, même si c'est du tibia, bah, c'est une belle récompense aussi pour lui. Ouais, il marque pas beaucoup. Je crois que c'est son premier but avec Grenoble, d'ailleurs.
C'est ça.
Donc, bah, forcément, ça va lui faire plaisir. Et puis, si ça peut l'inciter à continuer sur cette voie-là, c'est tout le GF qui en bénéficiera derrière.
Et je précise qu'il est en fin de contrat au mois de juin.
Alors il a un plus 1 en option, lui c'est sûr. Après c'est quoi le plus 1, je ne sais pas, mais potentiellement voilà, ça peut tomber très vite et il ne sera pas nécessairement en fin de contrat dans 6 mois.
Eh bien écoute Fred, en tout cas on te remercie. On rappelle, vous pouvez élire le joueur du mois sur le site Métrosport. Fred, on te dit à bientôt.
À très vite.
À très bientôt Fred, merci.
Bonne soirée à tous.
Ciao.
Ouais, c'est intéressant ce qu'il dit Fred, parce que c'est vrai que Frank Bambock ça monte en puissance, ça monte aussi peut-être qu'on a besoin d'étoffer ce milieu de terrain avec l'arrivée d'un Jesse Benet, ça répond à ça pour le faire monter en compétence en tout cas du coup. Mais en tout cas c'est de bon augure. On va bien sûr tout de suite débriefer de ce match face à Nîmes, messieurs. Vous êtes toujours dans le Foot Time Show sur News FM 101.2, à tout de suite.
Tous ensemble avec le GF 38.
Mathieu, tu lèves la main,
bien sûr, je te donne la parole. On va en profiter, étant donné que notre Kevin National n'est pas avec nous aujourd'hui. On le salue. C'est moi qui vais lire les messages, donc du coup en direct.
Bien sûr, ça réagit sur les réseaux, Mathieu.
D'ailleurs, je vois que je m'appelle Kevin Spitarelli.
J'ai pas le temps de changer.
Je savais pas. J'espère que Kev, je te fais pas de l'ombre. En tout cas,
on te met en plein écran, Mathieu.
Et attendons. Ah oui. Alors, Kevin, justement, qui dit bonne émission, les gars. Jonathan National, notre Jonathan National. Alors,
salut, Jonathan.
Qui est là, bonsoir à tous. Titi qui me met un petit message personnel pour me dire que ça fait plaisir de me voir. Merci. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, Titi. Cédric qui nous dit salut les gars, j'ai adoré le retour de Jesse Benet. Je trouve Maubleu toujours aussi rassurant et je choisis l'infatigable Franck Bambock comme joueur du mois. Comme d'habitude, c'est vrai que c'est un fervent défenseur de Franck Bambock depuis
bien,
depuis très longtemps. De Cédric qui nous suit habituellement et qui donc lui met Bambock au la main pendant dans son joueur du mois. Lorsqu'on a parlé de lui justement, il nous dit merci, vous ouvrez les yeux, vous faites plaisir. Vincent Ognon, quand il fait l'équipe, il met Maubleu, Monfray, Bambock et les autres autour. Il n'a pas tort.
C'est vrai.
Comme quoi Franck Bambock. On a beaucoup parlé de ses défauts ces derniers temps, mais comme quoi c'est important de savoir que quand on met un joueur complètement différent autour d'un autre même joueur, ou par exemple ça peut être un défenseur central associé à un autre défenseur central
complémentaire,
une complémentarité, quelqu'un de plus vif, quelqu'un de plus technique ou autre, et ben forcément des fois et ben c'est tout autre, et c'est certainement ce qui se passe avec Franck Bambock, et donc du coup on croise les doigts pour que ça continue comme ça pour les prochaines fois.
Eh ben écoutez, allez, on va revenir sur ce match face à Nîmes, cette victoire du côté des Crocodiles de Nîmes, 2-0, messieurs, c'est un très très bon résultat.
Ouais. Super résultat. Après Nîmes, on a l'habitude d'aller gagner. Match plutôt correct, même très bien.
Bon match, je trouve correct.
Après,
On l'a dit depuis le début de saison, on est meilleur à l'extérieur, mais c'est fou parce que l'autre équipe est obligée de faire un petit peu le jeu sous la pression du public, donc on a beaucoup plus d'espace. Il me fait rappeler un match ce match de Nîmes me fait rappeler un autre match où on marque début de match et après en début de seconde période. C'est exactement ce qui s'est passé. On marque à la 12e et on marque à la 53e. Donc ça, c'est tout bénef. Donc ça veut dire qu'on commence bien au mi-temps. Je pense que Vincent Ognon y est pour quelque chose, que ce soit avant le match pour motiver ses troupes et que ce soit à la mi-temps avec son discours. Après, franchement, c'était ce deuxième but Nîmes. Mmh. On va parler un peu de Nîmes parce qu'ils nous ont facilité un petit peu, pas si dangereux que ça. Maubleu.
Impérial,
pas trop inquiété non plus. Une grosse occasion par contre en début de deuxième période, si Marc, c'est pas le même match, il est tout seul à 3 mètres des buts, je sais pas ce qu'il fait.
Il est quand même vachement rassurant.
Ouais, Maubleu.
En défense, hein, c'est impressionnant, c'est son année à Brice Maubleu.
Et l'association Maubleu, Monfray, c'était super. Ensuite, devant, moi j'ai beaucoup aimé le match encore de Faiton, autre que son but. Et voilà, et on revient sur Bambock qui marque aussi et qui récompense tout son travail, tout ça, et Jesse Benet à la baguette. Hein. Ouais. Chaque fois qu'on récupère dans nos 30 mètres, bim bim, ça va devant, ça essaye, ça obtient les fautes qu'il faut, ça régule un peu ce jeu. On était un peu orphelin de ça. Et grâce à ce type de joueur, un peu comme je me répète, mais Axel Ngando, qui nous font un bien fou dans cette construction-là et dans cette transition offensive-là. Et voilà, un match mérité, une victoire amplement méritée, et 3 points. Et 4e au classement, donc...
On a conforté aussi le côté tactique, hein, Malek et la Suède, notamment avec ce 4-5-1, ce 4-3-3, entre guillemets, avec Bamba, que j'ai trouvé mieux, Bamba, hein, notamment, qui a fait tout le match. Il y a un joueur aussi qu'on critique souvent et que j'ai trouvé encore une fois costaud, c'est Gaëtan Paquet.
Oui. Je trouve que ça fait 2-3 bons matchs qu'il fait également.
Faut le dire.
Mais c'est bien, comme quoi on sait être honnête et reconnaître les choses quand elles sont.
On n'a rien contre les joueurs, la Suède, on est là pour débattre, attention.
Mais
ça a le mérite d'être dit.
On a un œil en plus qui est quand même aguerri de la part de Malek qui connaît le football professionnel mieux que nous. Ça, c'est évident.
Non, mais c'est clair.
Après, il y a des périodes, attention.
Cycles, c'est ça que tu veux dire.
Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Il y a des fois où pendant 2 mois tu te sens pas bien physiquement, où l'équipe tourne moins bien, et d'un coup, boum, t'as un pic de forme, t'as un petit déclic qui fait que voilà. Mais ça dure pas toute la saison. Même Jesse Benet qui font des matchs depuis qu'il est arrivé, je ne l'ai pas vu faire un mauvais match. Ça va lui arriver de faire un ou deux, trois matchs. On sera critique avec lui autant que Franck Bambock ou Paquet. Donc quand on voit Paquet faire des matchs comme ça, ça fait plaisir, ça étoffe l'effectif, ça donne encore plus de choix à Vincent Ognon. Et donc, que demande le peuple?
Comment ça se fait que Mendy n'était pas là?
Alors il était blessé, il s'est blessé au mollet lors du match précédent contre Quevilly, à savoir qu'Ariel Mendy, donc du coup le nouvel arrière gauche qui remplace Alex Gersbach numériquement, avait passé pas mal de temps sans jouer.
Ouais, tout à fait. Donc les organismes à se remettre en haut niveau, c'est pas facile.
Je pense qu'il faut être très honnête. Malek peut très bien nous le dire. Tu joues pas pendant quelques temps. Je sais même pas s'il avait joué avec la réserve de Clermont. Donc s'il avait pas joué encore avec la réserve, c'était encore pire. Mais du coup, il faut quand même pas mal de temps pour encaisser les matchs. Surtout que là, on avait des matchs qui étaient très rapprochés. Donc voilà. Mais au final.
Non, mais quand je vois de toute manière, quand on voit que Gaëtan Paqui a joué, Jordi Gaspar, Alan Tchapchet, que on avait encore sur le banc.
Ouais, c'est tort.
On avait sur le banc Nestor, on avait Diarra, je vais vous dire, je suis pas du tout inquiet.
Après moi j'étais surpris de sa titularisation.
De pardon.
Non, de Mendy, notre recrue contre Kevili.
Ouais, je suis
sorti à la 73e avec des crampes et tout ça, c'est un peu, je sais pas si
prématuré peut-être.
Je sais pas s'il a fait une préparation ou pas, donc si le coach voit que c'est le mec titulaire et sait quoi faire, donc c'est un peu dangereux. Après d'enchaîner les matchs, c'est impossible. Impossible quand ça fait pas mal de temps. Même si tu t'entraînes avec la réserve, t'as pas l'intensité du match, t'as pas l'habitude de répéter les efforts. Et physiquement, on sait qu'il va être défaillant à un moment donné. Et ça risque les blessures. Donc c'est pour ça que je dis que c'est dangereux. Après, le choix du coach, il a été fait. Et si tu remarques bien, contre Kevili, il sort à la 70e, je crois. Il avait déjà des crampes et tout ça. Et c'est tout à fait normal. Attention, hein. je dis pas pour lui jeter la pierre ou quoi que ce soit, mais j'étais surpris qu'il soit titulaire.
Ouais, mais
c'est sorti à la mi-temps, là, je viens de voir, là, à la 45e minute.
Non, mais je suis d'accord. Après, je pense qu'ils ont peut-être voulu le mettre dans le bain tout de suite. Peut-être que c'est une volonté du joueur aussi de s'intégrer tout de suite au collectif, à savoir qu'Ariel Mendy, il est loué pour son. Il a été loué du côté de Clermont pour
ouais, il n'est pas en LOA.
Pardon ?
Il n'est pas en LOA et location longue durée, on l'a acheté.
Non, mais je veux dire,
ce que tu dis, il est loué.
Il est loué pour sa mentalité. C'est ça que je voulais vous dire. C'est que ça a l'air d'être quelqu'un qui est reconnu en termes de mentalité comme étant quelqu'un de super. Donc moi je me dis toujours, si j'étais joueur, je voudrais montrer, prouver tout de suite ce que je vaux. Voilà. Donc après les crampes, elles sont pas anodines au final. Et bon, pour le moment, ça s'est bien passé. Moi, pour revenir sur le match de Nîmes. Écoutez, moi j'ai pas trouvé un match sensationnel quand même. Alors peut-être que c'est correct,
match extérieur.
Je dirais correct. Maintenant, je trouve que les attaquants nîmois ont été très maladroits.
Ça nous a beaucoup,
ça n'enlève rien à notre qualité, je trouve, et au choix de Vincent Ognon, comme je vais rejoindre Malek qui nous prouve que malgré le fait qu'on fasse pas tout le temps le jeu, voilà, les choix sont plutôt cohérents au final. Voilà, je vais parler comme ça. Et puis voilà, Mathias Faiton, encore un match. Voilà, Bamba, tu dis qu'il revient bien. Ouais, moi, je souhaite vraiment qu'il revienne bien. J'ai l'impression qu'il est un peu blessé moralement quand même.
Ouais, moi aussi.
Maintenant, voilà, content pour Franck Bambock. Après, en termes de jeu, voilà, j'ai trouvé qu'on était quand même face à une équipe très très faible. On a su tirer notre épingle du jeu. Je pense qu'on a marqué les buts au bon moment. Je trouve que Brice Montbleu quand même, parce qu'on a été rassuré derrière.
On s'enflamme pas, mais on a été quand même réaliste.
On joue contre le 16e, hein, qui sont un point.
Ouais, mais on est à l'extérieur, on a été réaliste.
Premier non relégable, on va pas faire la fine bouche, on prend les 3 points, on gagne 2-0. Donc le travail il est fait, tout le monde est content, tout ce que tu veux, mais je mets encore l'accent sur la pauvreté du jeu.
Ouais.
C'est ce qu'on attend.
Oui.
Si tu joues un match comme ça, par exemple, si c'est Grenoble-Nîmes et que nous, on les reçoit, ils mettent le bus derrière. Et là, c'est pas du tout la même physionomie du match. Donc, c'est ce qu'on doit s'attendre à domicile. Si tu remarques bien, à l'extérieur, on marche super bien. Même si c'est en Coupe de France, on gagne à Nîmes, on gagne à Guingamp. On gagne à Plabennec, même si c'est la Coupe de France.
Mais bon, sur un champ de patates, avec des mecs qui ont le couteau entre les dents.
Bien sûr. On gagne à Rodez, on gagne beaucoup de matchs à l'extérieur. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, pour un championnat comme ça, après, La finalité, elle est quoi? C'est qu'Oignon, il a raison. Pourquoi? On est quatrième à 3 points.
C'est ça.
Du podium de la montée à 3 points de Sochaux, même s'il y a Amiens-Metz ce soir, qui a un beau match nul.
Nous arrangerait
Sochaux, Bordeaux et nous. Après, on va revenir aussi sur le recrutement. Parce que on va faire un point mercato, je crois, après, non?
Oui, tout à fait.
Donc,
on va peut-être d'abord appeler Wilfried Dalmat et après on fera un bilan.
Franchement, je me répète chaque émission, d'être le coach du GF38, je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui aimeraient être à sa place et avoir autant de choix.
Voilà, non, mais je suis d'accord, on a quand même un banc qui est plus que convenable. Les choix, même si on peut ne pas les comprendre, même si on ne prend pas de plaisir à avoir évolué le GF38, il faut dire ce qui est, hein. Quand tu parles à tous les fans de football qui sont venus voir un match cette saison, ils te disent que concrètement c'est pas la folie. Alors après, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut des résultats? Est-ce qu'on veut du jeu? Est-ce qu'on veut tout ça? C'est l'éternel dilemme.
Excuse-moi, la Suède te couper, mais
t'inquiète pas.
Après, en recrutant un coach comme Vincent Oignon, on sait à quoi s'attendre, hein.
Faut
pas se leurrer. Donc après, moi, je peux comprendre la direction, en l'occurrence Max Marty, sur le fait que la saison dernière, on a tellement galéré au niveau points, au niveau émotionnel. Donc il se dit quoi? Si on t'avait dit au mercato cet été, tu te retrouves mi-championnat
à quatrième place.
Voilà, on respire un peu plus, on est beaucoup plus serein, on peut construire, on va pas s'enflammer non plus parce que il y a toujours des choses à régler, mais je pense, en recrutant Vincent Lyon, on s'attendait à avoir une équipe aussi pragmatique. Elle a son image, son équipe.
Vraiment, ouais,
elle a vraiment à son image. Quand il était joueur, je sais qu'il était rugueux, qu'il était dur, qu'il était. C'est un défenseur. On le voit, et pourtant, il laisse rien transparaître sur le banc. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Je suis entièrement d'accord avec toi.
C'est-à-dire que quand tu le vois sur le banc, je l'ai
figé un petit peu.
Ouais, je le vois rarement s'énerver. On voit des entraîneurs, même en Ligue 2.
Ils sont très expressifs.
Ouais, comme Régis Brouard, quand j'ai vu contre Bastia, il bouge dans tous les sens. Après, chacun a sa personnalité, chacun a sa manière de faire, évidemment, pour transmettre ses messages. Mais, je trouve que notre équipe, elle a l'image de Vincent Oignon, pragmatique et surtout efficace. Après, à domicile, est-ce que ça suffit? Quand on est obligé de prendre le jeu à son compte et de faire le jeu et d'emballer le match, moi je ne l'ai pas encore vu à domicile. Et c'est malheureux.
C'est vrai qu'il y a un contraste entre les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur.
Moi, c'est un plaisir fou à aller voir jouer à l'extérieur. Quand tu vois le match de Guingamp et que tu vois le match de Bastia après, quand tu vois même le match de Kevili qu'on gagne et que tu vois le match de Nîmes, tu vois que c'est le jour et la nuit. Certes, il y a plus d'espace. Mais voilà.
Je sais pas d'où ça peut venir cette chose, parce que quand tu réfléchis, je trouve malgré tout notre stade des Alpes très glacial. Hein,
mais il fait froid.
C'est mon stade, mais je le vois quand même. Enfin, c'est glacial quoi. Quand t'arrives, je pense que quand t'es joueur et que tu vois le stade des Alpes qui est complètement vide, qui fait froid, où t'as que la Ouest qui bouge et qui brasse.
Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs.
Ouais.
Ils ont fait le déplacement encore là.
Ouais, encore à Nîmes, ils sont allés très nombreux, les Diables Bleus et les RK, donc félicitations à eux, et heureusement qu'on les a pour le club. Mais c'est un peu glacial. Alors, je pense pas que c'est une excuse, je vois pas une pression énorme, mais bon.
J'ai trouvé très sympa aussi. Que tous les joueurs soient allés à la fin du match faire un petit cri avec les supporters. Et franchement, moi, je l'ai vu à la télé. C'est la moindre des choses qu'on peut faire pour les gens qui se déplacent et
qui les encouragent. Parce que News FM, c'est le partenaire du GF38.
News FM, en partenariat avec le GF38, vous présente le prochain match à domicile du GF. C'est ce samedi 11 février à 19h. Le GF38 recevra Pau sur la pelouse du Stade des Alpes. Rendez-vous au Stade des Alpes à 19h. Plus d'informations sur la billetterie, billetterie.gf38.fr.
Si c'est pas beau ça.
Et parce que la billetterie, on vous l'offre aussi. Si j'ai des places aussi, on va offrir 2 places pour nos auditeurs. On va vous expliquer, on verra avant la fin de l'émission comment on fait, on fera peut-être un petit quiz en tout cas, parce que là on a de l'actu sur les lignes téléphoniques aussi qui va arriver, notamment excuse-moi de t'avoir coupé madame.
Non, mais
il fallait que je passe
normal,
le spot. Dans le GF38 il nous paye à un moment donné, faut bien qu'on rentre.
Ouais, pas rien du tout.
En tout cas nous il nous paye pas,
ouais. On aura pas besoin.
Et heureusement d'ailleurs.
Donc pour revenir sur ce que tu disais Malek,
On parlait des supporters, j'ai trouvé très sympa l'image. Je l'ai vu à la télé où tu vois, des fois, il y a des équipes.
Rien à carrer.
Là, il y avait tous les joueurs.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais tous tu sens qu'il y a quelque chose.
Tous les joueurs qui sont là, qui sont heureux, même les remplaçants. J'ai vu même Nestor venir à la fin, avoir un grand sourire. T'imagines, lui, il rentre que 3 minutes à la fin.
Tout le monde était. Je sens tout le monde concerné,
voilà,
en fait.
Donc il y a cette osmose de groupe-là qui. Ah, ça sent quelque chose. Et malgré tout ce qu'on peut dire, les défauts, bien sûr, parce qu'il y en a, évidemment. Mais on a perdu beaucoup, beaucoup de points en route. Mais on reste là encore. Voilà, on a eu un creux. J'espère que là, on est reparti. J'espère de tout cœur qu'on va passer ce match-là en quart de finale.
J'espère aussi, c'est tout ce qu'on... Parce que on parlera après du match de Vierzon.
Voilà, ouais. Le match de Vierzon. Et ensuite, on enchaîne 3 jours après contre Pau. Que quoi dire, franchement, moi je suis très optimiste. Je l'ai toujours été. J'ai dit top 5, pour l'instant j'y suis, et franchement je suis fier.
J'espère pour toi que tu as mis un billet.
Non, j'ai rien mis, c'est péché. Et donc voilà, après on suit notre petit bonhomme de chemin. Il y a des accros, il y a tout ça, mais avec ce recrutement, avec les blessés qui vont revenir. Avec les températures qui vont se réchauffer, si on reste là-haut, pas très loin de Bordeaux, Sochaux, de tout ça, avec les beaux temps qui arrivent, je pense que avec la Coupe de France, que le stade va se remplir peu à peu. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer, qu'on attend, que tous les Grenoblois attendent en fait. Et moi le premier.
Du coup, je vais vite revenir sur le peu de messages qu'il y a, parce qu'il y a des choses intéressantes quand même, notamment le fait qu'on est suivi au Luxembourg.
Cool.
Voilà, Richard Fit aussi qui nous suit du Luxembourg.
On l'embrasse très fort, mais c'est mon parrain, Richard. Quoi. J'embrasse très fort.
La famille, ça.
Ouais, c'est important.
Hein.
Bah oui, c'est clair. Et un message intéressant avec une question qui nous demande ce qu'on pense du départ de Gersbach. Est-ce qu'on gagne au change avec son remplaçant? On y reviendra dans le bilan mercato tout à l'heure.
Exactement, mais tout de suite dans le Foot Time Show, l'instant Narvalo avec Wilfried Dalmat. À tout de suite.
Narvalo, c'est quoi? C'est des soldats. C'est des soldats qui veulent hisser haut et fièrement les couleurs de Grenoble. La lutte, l'unité, le combat, le courage. Les Narvalos, c'est quoi? C'est des frères avec un cœur énorme, prêts à se battre les uns pour les autres, qui renonceront jamais. Les Narvalos, c'est quoi? C'est vous, c'est nous, c'est la meute. Les gars, prenez du plaisir, kiffez ça. Bonne chasse, bon match.
Allez, allez.
J'ai pas mes micros.
On a mis un peu de temps, mais ça y est, on a notre invité avec nous. Wilfried Dalmat est avec nous ce soir dans le Full Time Show. Bonsoir Wilfried.
Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir.
Salut Wilfried.
Bon, déjà comment tu vas?
Moi super bien comme toujours.
Bon, en plus t'es dans le bel âge, hein, 40 ans je crois Wilfried.
Ouais, j'ai eu 40 ans l'été dernier, ouais. Donc je suis rentré dans, on va dire, la période de la crise de la quarantaine apparemment, mais...
tu penses?
C'est ce qu'il dit, non, apparemment, la crise de la quarantaine chez les hommes.
Il paraît qu'elle peut être dangereuse, ouais, je te le confirme.
Ouais, pour l'instant, ça va.
Ça va, t'es...
Melvin et Malek n'ont pas l'air d'être... crise.
Moi,
j'y suis pas encore, donc je vais essayer de prendre encore les quelques années qui me restent. Alors du coup, les gars, vous me faites déprimer. Mais ouais, t'as l'air toujours en forme à 40 ans, Wilfried.
Ouais, toujours. Hein? Ouais, on essaie de maintenir la joie de vivre.
Ouais, la joie de vivre, mais aussi le côté physique, puisque tu joues encore au football.
Ouais, je joue encore au foot actuellement. Ouais, je joue au niveau R2, donc c'est au niveau amateur.
D'accord.
Du côté de Tours, un club qui s'appelle les Portugais Jouer les Tours, donc un club de Portugais et familial. Donc je prends du plaisir avec eux.
Apparemment, il y aurait une très très bonne défense du côté des Portugais de jouer les tours. Apparemment, la défense, c'est du béton.
Elle était facile. Ouais, on salue nos amis portugais.
Je vais te comprendre. Oh merde, t'as pas osé.
On est désolé, Wilfried.
Désolé, Wilfried. Hein. T'as pas appelé pour ça. Hein.
Jouer... Attends, si je me trompe pas, jouer les tours, c'est pas où t'avais commencé quand t'étais jeune?
Exactement, j'ai commencé le foot à 6 ans à jouer les tours. Ouais.
C'est énorme de finir sa carrière là-bas, du coup. Hein.
Ouais, on boucle la boucle, comme on dit.
Ah, mais c'est beau parce que en plus je pense que ton expérience doit quand même servir à des joueurs de R2 quand on va au charbon tous les week-ends. C'est toujours un bon exemple d'avoir un ancien joueur pro dans ses rangs. Tu prends du plaisir?
Ouais, je prends du plaisir. Hein. Sincèrement, je prends du plaisir à encadrer, c'est vrai, les plus jeunes. Donc on a un groupe assez jeune. Donc moi je suis assez proche en fait du président, de la direction. Donc l'objectif c'est d'apporter en fait un plus dans un premier temps sur le terrain, mais aussi pour faire évoluer le club et les faire grandir et encadrer un peu tous ces jeunes joueurs.
T'encadres aussi au sein du club?
Ouais, je suis assez proche du président, donc voilà, quand il y a des questions à soulever, des réponses à avoir, il me consulte. Maintenant ça reste en aparté entre lui et moi, donc voilà un peu mon rôle au sein du club.
Et c'est en plus de ça, Wilfried, le fait de jouer en R2, tu joues également pour la sélection de Saint-Martin.
Oui, c'est ça. Ouais, je suis rentré il y a une semaine. On avait un stage de 10 jours. On a fait un match amical contre Trinidad et Tobago.
Ça doit être génial.
Depuis septembre 2019, ouais, je joue avec la sélection de Saint-Martin. On a fait les qualifs en fait pour la CONCACAF. C'est un peu la coupe en fait d'Amérique. Du sud, des Caraïbes. Donc voilà, c'est un niveau un petit peu plus, enfin beaucoup plus élevé même que le niveau auquel je joue actuellement.
D'accord.
En R2. Mais toujours un plaisir de rentrer dans les îles.
Qui est venu vers toi?
C'est mon meilleur ami en fait, Cédric Vanucca, avec qui j'ai joué en équipe de France, ouais, qui actuellement est entraîneur au Stade Rennais. Et il a un ami qui est entraîneur de la sélection, qui
D'accord.
a repris la sélection de Saint-Martin en mai 2019. Et du coup, il cherchait des joueurs originaires des Antilles pour
c'est énorme.
Pour faire grandir un peu le niveau de football saint-martinois, parce
Bien
que
sûr.
C'est assez faible en fait de base.
Mais si je ne m'abuse, Saint-Martin, c'est l'île qui est coupée en deux, moitié hollandais, moitié français, c'est ça?
Exactement.
C'est D'accord, ça, ouais. Ok. C'est
ça. Non, mais ça doit être quand même une belle. Wow. En plus des
ça,
voyages,
ça fait des voyages de fou.
Sympa, mais
mais
c'est
combien de temps pour aller au moins? Moi, 12 heures, non?
Non, il y a 8 heures.
Ok.
Faut pas aller.
C'est l'été là-bas?
Ouais, c'est l'été toute l'année, ouais, 30 heures.
Alors, t'as envie de rentrer à Tours après ou pas?
En général, après, je bifurque pour voir mes parents en Martinique. Comme
tu m'étonnes.
Okay.
Alors, sinon, on ose un peu mon séjour. Ouais.
Ouais, moi, je vous dis juste, faut pas avoir Wilfried sur Instagram parce que franchement, vous avez envie de vous pendre. Hein, vous le dis direct, hein. Parce que vous le voyez tout le temps au soleil et tout. Là, franchement, Wilfried, tu nous fais baver.
Je vais te dire, Wilfried, quand on va retracer ton parcours, mais qu'est-ce que je te comprends? Parce que t'as quand même fait des destinations, c'était pas toujours au soleil. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais c'est.
Tu vas drouiller un peu partout en Europe, ouais.
T'as attaqué très jeune à Nantes, hein, notamment.
Oui, c'est ça, ouais.
Au FC Nantes, tu bifurques ensuite du côté de l'Olympique de Marseille, puis là t'enchaînes Châteauroux, Grenoble, où on reviendra sur ton parcours après, tu pars faire une mini pige en Italie du côté de Lecce.
Oui.
En Espagne du côté du Racing, et après tu t'installes pendant plusieurs années du côté de la Belgique, où je trouve que c'est vraiment là où tu commences à guérir ta carrière et où tu joues le plus.
Ouais, c'est pour moi les plus belles années en fait de ma carrière, aussi bien sportivement que humainement. Et je me suis totalement en fait épanoui après l'épisode de Grenoble en Belgique où je me suis fait un peu oublier de la France. Et j'ai réussi à me faire un prénom en fait, parce que j'avais un nom qui était
T'as souffert justement de l'image, entre guillemets, de l'image du frère de Stéphane?
Oui, j'en ai souffert hein, quand j'ai commencé en fait mes études à 18 ans et demi au FC Nantes. À ce moment-là, il était à l'Inter de Milan.
La grosse époque. Hein.
C'était l'Inter de Ronaldo, de Vieri. La grosse armada à l'époque, et c'est vrai que c'était vraiment un grand espoir du football français, mon frère. Donc forcément, il y avait une comparaison qui était toujours faite quand on me voyait jouer. Le rendement n'était jamais assez suffisant aux yeux des journalistes, peut-être même des coéquipiers, aussi de mes entraîneurs.
Oui,
en plus, il y a une ressemblance physique, en plus, vous ressemblez fortement.
On a la ressemblance physique, il y a forcément la comparaison, on était obligé de la faire. bon, on va pas se mentir, il faut dire la vérité, j'avais un niveau largement en dessous de mon frère, parce que bah il a quand même joué à l'Inter de Milan pendant 3 ans, donc ça veut dire qu'il a atteint un tel niveau que moi je n'ai jamais eu. Donc ouais, ça a été un peu difficile en fait de vivre un peu dans son ombre.
Après,
à la fois, j'étais aussi tellement fier d'être son frère et de ce que lui faisait dans le football. Ouais,
bah c'est beau, non, mais c'est important. Parce qu'en plus, vous avez quoi, 2-3 ans d'écart, non?
Non, on a 4 ans.
Plus que ça.
4 ans d'écart.
Ouais.
Mais après, vous aviez des styles de jeu complètement différents avec ton frère Wilfried. Donc la comparaison, pour moi, elle est pas juste au final.
Ouais, mais t'es obligé. Ils se ressemblent physiquement. Ils ont 4 ans de différence. C'est comme les enfants à Zizou. Ça sera voilà. Tu vois, t'es obligé de comparer.
Mais il a raison ce qu'il dit.
Tu vois ce que je veux dire. Même inconsciemment, le regard extérieur, il va les comparer. Le supporter va le comparer. J'espère pas que tes coachs l'ont fait, parce que franchement ça serait vraiment très petit, sinon ils t'auraient pas recruté, je pense, tu vois. Donc t'as tes valeurs, t'as fait malgré tout ce que tu viens de dire par rapport à ton frère, avec toute la grande carrière qu'il a faite, t'as fait une très belle carrière, et franchement on est là, on est tous les trois réunis pour te féliciter de ta carrière qui est pas finie d'ailleurs, mais donc y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se targuer ça.
Merci, c'est gentil. Après on en veut toujours plus, donc
bien sûr.
Ouais, je pense que j'aurais pu faire une meilleure carrière, mais quand je regarde à l'inverse, ça aurait pu être
t'aurais pu jamais saigner pro déjà.
Satisfait de ce que j'ai eu.
Non, puis tu t'es inscrit notamment en Belgique. Quand je vois que tu as été champion, notamment avec le Standard de Liège, tu joues en 2 ans plus de 72 matchs. Non, mais c'est
pas n'importe quelle équipe, le Standard de Liège, quand même.
Moi, j'ai joué à la Gantoise, je peux te dire que Standard est même club de Bruges. Vous ne connaissez pas, on appelle la Bruges, c'est une super ville. On
a joué après au FC Bruges, notamment.
La Venise du Nord, donc il y a des bons chocolats là-bas.
Malek, c'était la fin de carrière là-bas.
Non, pas que, mais franchement, pour revenir au Standard. Standard, c'est un club mythique avec Anderlecht en Belgique. Et c'est surtout les représentatifs des Wallons. Parce qu'il y a les Wallons et les Flamands. Et le Standard, c'est le club phare Wallon. Et ils jouent contre le club de Bruges, le Cercle de Bruges. Non, le Cercle de Bruges, c'est un peu moins huppé. Mais Anderlecht, des nouveaux riches, des nouveaux clubs qui sont arrivés sur le devant de la scène, qui sont principalement flamands avec leur argent. Ouais. Donc Standard, c'est plus populaire et c'est une ambiance de folie.
C'est ce que j'allais dire.
T'as dû te régaler au stade avec.
Franchement, moi, mon premier match en pro, je l'ai fait au Stade Bollard, à Lens.
C'est les mêmes couleurs en plus.
Oh là, magique.
La comparaison, en fait, avec le Standard de Liège et Lens, pour moi, c'est un public identique et c'était
extraordinaire.
C'est des bons souvenirs. Regrets dans ta carrière en général? Par exemple, je vois tes passages à Nantes, à Marseille.
Non, mais t'inquiète pas, les regrets, il les a pas à Nantes et à Marseille.
À Grenoble aussi, on reviendra.
Malheureusement,
un peu plus.
On en parlera après. Mais
ouais, c'est surtout l'épisode de Grenoble qui reste.
Ok.
T'as souffert de cet épisode-là, justement?
Souffert, oui, sincèrement, oui, j'en ai souffert, oui, parce que j'étais jeune en tout cas, donc ça a été, deux années un peu compliquées en fait au niveau du football. Donc ouais, ça reste un peu ma plus grosse blessure en fait dans ma carrière.
On n'est pas tendre en plus avec toi, hein, que ça soit le public grenoblois n'a pas été tendre. C'est des choses qu'il faut dire. Hein.
Bah, personne n'a été tendre du tout avec Wilfried, si ce n'est ses coéquipiers, je pense, de l'époque, peut-être pas tous.
À côté de ça, humainement, je garde un excellent souvenir en fait de l'ensemble du vestiaire en fait, parce qu'on avait vraiment un super groupe. Il y avait énormément de qualité, donc je pense qu'on n'a pas atteint les objectifs qu'on aurait dû atteindre. Mais à côté de ça, humainement, en fait, le vestiaire vivait super bien et les mecs, ils ont toujours été cool avec moi et ils avaient entre guillemets, je pense, pitié en fait de ce que je subissais. Mais je garde un très bon souvenir de l'ensemble du vestiaire. Hein.
Alors, il faut savoir qu'à l'époque où tu signes, Wilfried, il y a une grosse série qui arrive au GF 38, de gros noms comme toi, Gaël Danick notamment, David De Freitas, qui était quelqu'un de très très confirmé pour la deuxième division à ce moment-là. J'oublie certainement encore.
Égoutou au lycée.
Égoutou au lycée.
Frédéric G, qui était de Auxerre.
Ouais. Kwame Agbo avec sa jambe qui pouvait pas plier à plus de 45 degrés.
Mais c'est pas quand t'as aussi Vivian Mathéou, Steven Pelé.
Non,
ça c'est encore après. C'est encore la saison d'après. Et donc, tout ça pour dire qu'effectivement, le club décide de vous faire venir et que du coup, il y a un gros chamboulement au niveau de l'effectif. Vous arrivez et là, c'est une année vraiment galère au niveau sportif.
Bah, une année noire, en fait. Moi, je devais repartir, en fait, sur ma troisième année avec Nantes. Et puis, l'entraîneur, en fait, me dit que je partais comme le deuxième ou troisième à mon poste. Et puis je pense que ça a été la plus grosse erreur de ma carrière. J'étais à Nantes bien installé depuis 2 ans, je jouais, j'avais fait la Ligue des Champions avec eux, donc j'avais aucune raison de partir, mais voilà, j'étais un petit peu immature, je pense, et j'ai fait le mauvais choix. Donc j'ai demandé à partir, et puis 3 jours après, en fait, il y a Max Martin, directeur sportif, qui a sauté sur l'occasion. Donc j'ai résilié mon contrat avec Nantes, un club de Ligue 1, bien installé en fait dans notre championnat français, pour m'aventurer en fait à Grenoble, un club de Ligue 2. Alors l'objectif pour moi, c'était de montrer à la France entière que j'étais capable en fait de faire une saison pleine. Et je me suis dit, bah, autant redescendre d'un échelon pour tout casser en Ligue 2 et puis remonter en fait 1 ou 2 ans après. Mais le problème, c'est que la transition entre le football, le championnat de Ligue 1 et Ligue 2, je l'avais envisagé comme ça.
Ouais, tu m'étonnes, Malek qui rigole. Malek qui rigole parce qu'il connaît bien, lui, le changement entre la Ligue 1 et la Ligue 2.
Ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. En Ligue 1, t'as moins le temps, certes, mais t'as moins de contacts. Les joueurs qui sont avec toi, t'as pas besoin de trop parler. Il y a moins d'erreurs techniques, t'es beaucoup plus protégé. T'as moins de. Voilà, moi j'ai joué en Ligue 2, je peux te dire, en étant attaquant, j'en ai pris des parpaings. Alors qu'en Ligue 1, t'es super surprotégé.
Ouais.
Donc t'as la liberté de contrôler. Le défenseur, il te laisse contrôler, il te laisse te retourner, il te laisse le fixer, il te laisse. C'est incroyable. Mmh. Donc c'est deux footballs qui est totalement différent. Moi je pense que c'est plus dur de jouer en Ligue 2 qu'en Ligue 1.
Pour
moi.
Oui, clairement,
ouais, moi j'ai joué en Ligue 1 et en Ligue 2, je peux te dire, tous les joueurs qui ont fait ça comme moi, ils me rejoindront.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Donc, excuse-moi, on t'a coupé.
Oui,
tu m'as fait rire, ça, juste quand t'as parlé de Ligue 2.
À Grenoble, et l'entraîneur, c'était Alain Michel.
Mm-hmm.
Et on n'a pas eu de préparation physique. Moi, quand je sors de Nantes, j'avais fait entre la formation et la section pro avec Rena de Noix, en fait, j'avais des entraînements qui étaient extrêmement poussé,
ouais,
aussi bien physiquement que tactiquement. Donc j'ai baigné en fait dans la culture du jeu à la nantaise.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Les entraînements, et j'arrive en fait à
Grenoble, c'est pas la même.
Je peux avoir avec monsieur Alain Michel, pour moi c'était pas un entraîneur de foot. Alors, la préparation en fait que j'ai eue, en fait, c'était des oppositions. On a fait opposition sur opposition et des matchs.
Qui était le préparateur physique d'ailleurs? Xavier Bernat.
J'ai aucun
souvenir. T'en rappelles plus? Je crois que c'était Xavier Bernat, mais je veux pas dire de bêtises. Un jeune.
Ça me parle pas du tout.
Bon, bah écoute, c'est pas grave. Mais comme quoi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, Alain Michel, on a eu pas mal de joueurs qui justement disaient l'inverse, qui ont trouvé que c'était un entraîneur peut-être qui leur convenait plus, mais en l'occurrence,
c'est pas le même parcours.
Ouais, c'était pas les mêmes parcours de joueurs.
Quand tu sors,
effectivement.
Quand tu sors de la Genelière et que t'as Ronald de Nouex, et que t'as le football, à Nantes, il s'est réputé pour ça, et que t'arrives avec Alain Michel. J'ai jamais été entraîné par Alain Michel, mais je pense qu'il doit avoir une grosse différence.
Bah,
D'où le dire de Wilfried.
Ah bah oui, non, mais je...
On peut, de Nouex, on peut imaginer. Même, c'est quelqu'un, Real Sociedad d'après, je crois. Hein, c'est ça,
ah, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc t'as l'impression d'être passé du coq à l'âne, en fait.
Exactement, en fait. Et je me suis perdu, en fait, dans les séances d'entraînement où je comprenais pas trop, en fait. Énormément de jeux, beaucoup de jeux. Et puis comme il y avait beaucoup d'attentes sur moi, j'ai commencé la saison, mais que ce soit moi ou bien l'image de l'équipe, on n'a pas forcément eu de bons résultats. Et puis petit à petit, un match, deux matchs, la défaite. Ensuite il a été limogé et c'est Dominique Cuperli qui est arrivé.
Qui venait d'Auxerre.
Mon début de saison, quoi. Je pense que c'est en octobre qu'il est arrivé, Dominique Cuperli.
C'est ça, ouais.
Donc saison déjà galère, parti dans un bourbier et puis après pris en grippe par les supporters, les sifflets, les insultes. Donc après c'était compliqué. Et puis comme je à ce moment-là j'ai pas forcément eu un très gros mental et j'ai baissé les bras et je me suis renfermé un peu dans ma coquille et puis j'arrivais plus à jouer au football. Donc
Donc, on peut comprendre. Hein.
C'est ouais, c'est tout à ton honneur déjà de le reconnaître, c'est parce que je pense que c'est jamais évident. Hein. T'as quoi, t'as 23 ans.
Ouais, j'avais 22-23, ouais, je pense. Ouais.
Non, mais c'était, moi, c'est ce que je disais. On a discuté, bien sûr, en off avec Wilfried. Il sait que moi, j'étais très actif à ce moment-là en tant que supporter aussi, et que quand on y repense. À tout ça, quand on a de la maturité et quand on réfléchit à tout ce qui se passe, et surtout quand on sait ce qui s'est réellement passé d'un point de vue sportif. Mmh. Wilfried me disait très clairement que pour lui, enfin tu vas peut-être pouvoir me le confirmer, mais que pour toi t'étais autant fautif dans la non réussite que le club.
Ah bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais. Moi j'ai clairement lâché en fait. Alors j'ai eu un petit espoir quand Dominique Cuperlé est arrivé, mais il est arrivé mais sans trop donner de confiance. Et après j'ai sombré, je venais à l'entraînement
blasé,
mais pour faire acte de présence. Mmh. Mais je sais que je donnais pas à 100%, je me suis pas battu en fait pour regagner ma place ou pour montrer en fait mes capacités, parce que voilà, j'ai vécu un petit traumatisme en fait, hein, la transition entre la Ligue 1, la Ligue des Champions, les paillettes. Et puis, on a un stade, avec tout le respect que je peux avoir pour les Diguerres, mais ça reste un stade de rugby.
Oui, c'est clair, on est d'accord.
Voilà, on avait des instants d'entraînement, c'était des préfabriqués.
Ça n'a pas changé, je te rassure.
Vous avez construit un magnifique stade, ils auraient pu faire un instant d'entraînement.
Bah, ça y est, bah, ça vient, mais dans 2 ou 3 ans.
Petit à petit, Wilfried. D'accord. Tranquille.
Ah, bah, je pensais que depuis le temps, il y avait eu quand même.
Non, c'est toujours au même endroit, les mêmes préfabriqués.
Et puis, d'accord,
ok, ouais. Et il y a eu un dépôt de bilan hein, depuis aussi. Hein.
Oui, bah oui, j'ai suivi en fait.
Okay. Dans cet épisode-là, où t'as trouvé ton soutien, toi ? Est-ce que t'étais seul ? T'étais en famille avec ta femme, tes enfants ? Je sais que j'étais joueur pro. Bah, ça m'est arrivé, en fait, mais pas à ce point-là, d'être pris en grippe par les supporters. Je pense que c'est ça le plus touchant quand t'es au stade et que tes propres supporters te sifflent. Là, franchement, c'est horrible.
J'aimerais. En fait, au son entraînement. Je sais qu'il y avait des banderoles aussi d'Alma à la chèvre. Ça m'avait marqué en fait. Mmh. On m'insultait beaucoup de.
Mais ça, je m'en souviens pas, mais.
On était venus, enfin, les supporters étaient venus au son entraînement pour discuter. Donc, j'ai aussi un tempérament.
Ça, par contre, je m'en souviens.
Je suis un peu impulsif, donc j'avais répondu sans doute par des noms d'oiseaux aussi, moi-même.
Non, mais très honnêtement, je me souviens très bien de... Parce qu'on est écouté par les supporters et il n'y a aucun problème. Je m'en souviens très bien puisque j'étais présent moi aussi. Mmh. Et le tort est partagé hein, complètement. Ouais, franchement, Wilfried, je vais même te dire, c'est même pas toi, en l'occurrence, sur cette action-là qui est fautif. Il n'y avait pas à réagir comme ça. T'as beau être supporter, t'as beau aimer ton club, je le sais, je l'ai fait pendant de nombreuses années, en étant très très actif. Il y a des façons de faire, et cette façon-là, effectivement, je trouve qu'elle était vachement blessante pour toi. Et je sais très bien qu'en l'occurrence, tu avais quand même été épaulé par certains de tes collègues.
Oui, bah oui, bon, après, Kevin Hachi, moi, c'est aujourd'hui, ça reste un de mes meilleurs amis. Et à ce moment-là, il m'a été vraiment d'un grand secours. On était tout le temps ensemble, parce que c'est un super mec, Kevin. Il m'a beaucoup aidé en fait à traverser un peu cette tempête.
C'est important parce que c'est comme quoi le football, ça se joue à peu de choses. Parce que quand je vois comme tu rebondis 3 ans plus tard en jouant en Standard de Liège, c'est comme quoi l'histoire elle est quand même belle.
Oui, non, l'histoire est belle, ouais. L'histoire est belle, donc.
C'est peut-être nous, comme tu l'as dit, les torts sont partagés, mais on s'est peut-être trompé, prendre la bonne décision, la bonne façon de te discuter avec toi. Ça se joue à tellement peu de choses, le football.
Il y a l'environnement aussi, tout simplement. Quand tu passes, c'est exactement ce qu'il vient de dire. Tu passes de la Jaunelière.
Ouais, tu vas de l'Olympique Grenoble. De Marseille.
Oui, et l'Olympique de Marseille encore. Ben oui, je vais pas dire encore pire parce que moi j'adore Nantes mais je préfère Nantes à l'OM.
Mais comme il dit, tu vois les paillettes, tu vois les.
Et là, tu passes dans les préfabriqués de la poterne.
C'est dur.
Au stade Lesdiguières. Moi, j'adorais le stade Lesdiguières parce qu'on était vachement proche du terrain. Mais j'imagine en tant que joueur, tu préfères largement jouer au stade des Alpes ou ailleurs. Je veux dire, t'as quand même un écart. Parce que toi, il t'avait quand même présenté le stade et tout quand t'as signé ou pas, Wilfried ?
Oui, j'étais venu passer une journée, on m'avait présenté la ville, le stade aussi, donc je savais où je mettais les pieds. Par contre, on m'a pas vendu du rêve non plus. Hein. Mmh. Mais voilà, moi je vis pas forcément, même encore aujourd'hui, hein, le star system, les paillettes, c'est pas c'est pas ce qui m'intéresse, donc ça me dérangeait pas en soi en fait d'être dans des préfabriqués ou même dans un stade comme ça. Mais
Après, voilà, après, les supporters, là où ils comprennent pas, même s'ils payent leur place ou leurs abonnements, il y a le joueur de foot, mais il y a l'humain derrière.
C'est ça que j'allais dire.
L'humain, regarde, tu te rends compte, Wilfried, ça fait quoi ? Plus de 12 ans que t'es passé à Grenoble. Tu te souviens encore des...
18 ans.
Ouais, ouais, bah, 18 ans. Donc tu te rappelles exactement. Tu te rappelles, hein, quand ça fait mal, les banderoles, les insultes, les nuits que t'as passées à pas dormir, à te réveiller, les matins quand t'as pas envie d'aller t'entraîner. Moi, ça m'arrivait aussi quand j'étais plus jeune, mais moi, j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune. C'est pour mon premier match en pro à l'OGC Nice, par exemple. Je n'ai pas touché un ballon, j'étais nul. Tu sors à la 60e, il y a tout le stade qui te siffle. T'es formé au club, t'es nul. Tu te mets trop la pression. Même pas. J'ai 16 ans.
T'as 16 ans.
Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça, après, moi, ça m'a permis de. Tu vois, et je suis sûr que ça te l'a fait aussi. Quand t'as signé ailleurs, tu t'es dit, putain, t'as dû prendre une bouffée d'oxygène, respirer et être revanchard. Cet esprit revanchard-là, tu te dis, putain, allez, oh, je suis pas une merde et donc je vais me réveiller et c'est pas de ma faute entièrement. Et donc, ça t'a permis d'avoir un nouvel élan, si je me
ouais,
trompe.
Ouais, non, c'est clair. Hein, C'est un mauvais moment en fait, de ma carrière qui, par la suite, m'a permis de
mieux rebondir.
En fait, on va dire quelque part, même si ça a été dur, mais ouais, il y avait une forme de revanche en moi. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, bah ouais, je suis fier parce que je me dis, bah j'ai montré à mon petit niveau que finalement, ouais, j'étais capable, j'aurais pu. Et
petit, petit. En fait, après, tu joues quand même en Serie A à Lecce après, non ? C'est pas ça ?
En fait, l'année en fait où je suis arrivé, comme ça se passait extrêmement mal.
T'es prêté à Lecce, je crois.
Je suis prêté à Lecce en Serie A au mois de janvier, donc incompréhensible. C'est un club de Ligue de France.
Ce que j'avais dit, t'es prêté en Ligue en Serie A.
T'aurais pu prendre la Juve.
Là-bas, j'ai fait 11 matchs, j'ai marqué un but, donc je joue contre l'Inter de Milan. Donc ça m'a redonné en fait une bouffée d'oxygène pour terminer la saison. Donc c'était uniquement un prêt, sans option d'achat, et puis je suis reparti pour la deuxième année à Grenoble. Avec Monsieur Thierry Goudet en fait, qui a pris les commandes du GF 38.
En termes de jeu, c'était pas mieux.
Ça s'est aussi très mal passé durant cette deuxième année.
Je pense que Thierry Goudet là pour le coup, lui par contre est un peu fautif dans la gestion
globale,
dans la gestion humaine. C'est moi qui le dis de façon personnelle.
Je pense qu'on l'a tous vu, moi qui ai côtoyé aussi à l'époque le GF. Oui, c'était
la gestion humaine, c'était devant blanc et de l'autre côté par derrière c'était différent. Voilà.
C'est ça.
Voilà.
Wilfried, faut qu'on parle d'un club dans lequel t'as joué, parce que le GF 38 rencontre Vierzon. et t'as joué dans ce club-là ?
Ouais, j'ai joué un quart d'heure.
Ouais. Oh, punaise ! C'est vrai ?
Incroyable. Ouais,
en fait, une année avant l'année du Covid, en fait.
Ouais, c'est ce que je vois, le 2019.
Oh putain, un quart d'heure.
J'ai fait 3 ans en CFA2, en N3.
À Bourges.
Et sur ma quatrième saison, en fait, j'ai commencé avec Bourges. Et en septembre, j'ai quitté Bourges pour signer à Vierzon en octobre. Donc j'ai fait 5 matchs avec eux.
D'accord.
Et puis un match, ça s'est mal passé, j'ai pris carton rouge et j'ai arrêté. Et puis en janvier, j'ai re-signé dans un troisième club du côté de Tours. Et puis il y a eu le Covid. Donc sur la même saison, j'ai fait 3 clubs.
Ah, c'est pas mal.
Donc pas mal, ouais.
Mais alors Vierzon, dis-nous un peu la vie.
Bon, dis-nous comme c'est moche Vierzon, sérieux.
C'est extrêmement moche, ouais.
Okay. J'y suis passé pour aller à Niort, aller faire des déplacements comme ça, mais non, effectivement, c'est pas chouette.
D'accord.
C'est à 50 minutes de chez moi, en fait, où j'habite à Tours. Je m'entraînais que 2 fois par semaine, les matchs le week-end. Donc,
Ah ouais, d'accord.
Je vivais pas du tout là-bas. Ouais.
Ok.
Non, mais je comprends que t'aies pas trop envie de.
Là,
de...
ça se joue le match, d'ailleurs.
À Vierzon même, donc sur un synthétique.
Ah bon, mais non.
Ouais. Si.
8e de finale de Coupe de France. Ah, incroyable. Ils ont des belles infrastructures ou pas?
Alors dis-nous le stade.
Non, bah c'est un petit stade d'un petit club amateur avec une petite tribune sur le côté.
Il y a la buvette au moins ?
Oui, il y a une.
Non, je rigole.
Ah non, mais c'est important pour un match de Coupe de France, faut que ça tourne. C'est des clubs qu'on
a. C'est surprenant quand même qu'ils jouent à.
Ouais, moi aussi.
Alors, ouais, apparemment, ils ont eu l'homologation. Alors, est-ce qu'ils ont refait quelque chose depuis à Vierzon ? Je ne sais pas. Mais c'est un synthétique, ça je sais.
Ouais, c'est un synthétique, ouais.
Ouais, donc ils ont le droit de jouer là-dessus. Et donc, d'après mes. mes contacts, les joueurs du GF38 préfèrent largement jouer sur un terrain synthétique que jouer sur un champ de patates comme ils l'ont fait à Plabennec lors du tour précédent.
Ouais, mais c'est dangereux pour les joueurs pros de jouer sur un synthétique parce que ton corps il est habitué aux pelouses avec les terrains gras là, surtout là en ce moment. Retourner sur un synthétique, j'ai peur pour les organismes, surtout qu'on joue trois jours après.
Alors, il faut savoir que le stade a été refait en 2019. Hein, je le vois là sous les yeux pour que tu le saches.
D'accord. Quand Wilfried a signé, quand Wilfried était chez eux.
Non, moi, 2019. Je vais sur un ancien synthétique qui avait au moins plus de 10 ans.
Celui qui faisait des pizzas quand on
rentrait sur le... Non, pardon, excuse-moi, 2021. Il a été inauguré en 2021.
Tu donnes des...
Synthétique flambant neuf, tribune flambant neuf.
Ouais, tu donnes des fake news aussi, toi.
Okay. C'est rien,
non, mais voilà. Ouais.
Qu'est-ce que je te dis? Je le vois là sur le site de Vierzon, donc c'est déjà pas mal.
Non, c'est bien.
En tout cas, Wilfried, Vierzon, t'as pas mal bourlingué quand même, oh.
Ouais, beaucoup, ouais. Beaucoup.
Et là, t'as encore envie de jouer? C'est ça ma question. Parce que j'ai pratiquement le même âge que toi, j'ai 42 ans, et franchement, moi, je peux plus.
Ouais.
Physiquement, enfin.
Plus, j'avais entraînement ce soir et puis j'ai pas pu pour faire l'interview.
Ah, franchement, t'es trop sympa.
C'est pas grave, tu seras titulaire ce week-end. Ah, d'accord, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
Mais en fait, non, j'ai du mal à raccrocher, en fait. J'aime trop le football et même venir m'entraîner. À 19h sous la pluie, ça me dérange vraiment pas du tout.
Okay. Ouais.
Tu fais quelque chose à côté ou pas?
Non, je fais rien, non.
Est-ce que tu penses entraîner un jour?
Je me pose la question actuellement, mais j'ai du mal. C'est pas forcément un milieu qui m'intéresse, même de transmettre un peu le peu de connaissances que je peux avoir. J'ai pas cette fibre-là, en fait. Je pense pas avoir cette patience.
C'est ce que j'allais dire, c'est une patience.
Au niveau relationnel, oui. Donc travailler dans l'ombre, ça m'intéresserait, mais être le patron d'une équipe, même au niveau amateur, c'est pas quelque chose qui me...
Du coup, qu'est-ce qui te botterait si tu devais revenir dans le football, on va dire de façon...
Mais il y a encore dans le football.
Si tu devais revenir dans le football de façon plus professionnelle.
Pardon.
Merci de me laisser finir.
Un recruteur?
Ouais, recruteur.
Ouais, moi aussi, je kifferais.
Recruteur, ouais. Parce que j'aime être en mouvement, de par ma carrière.
C'est ce qu'on a vu.
Donc j'ai du mal à rester en place, donc voilà, aller regarder des matchs, recruter.
Bon, si t'as un petit filon, tu penses à moi. Hein. Moi aussi, je kifferais. Si t'as un petit filon, tu penses à moi.
Ouais, pareil.
Ok, pareil.
Moi, c'est quand même énorme. On a quand même Abdelmalek Sherad et Wilfried Dalmas.
C'est incroyable.
Dire qu'ils trouvent pas de club pour être recruteur.
Et on en a pas au GF38, hein.
En plus.
Ouais, mais bon.
En même temps, j'ai poussé la porte nulle part.
Ouais, moi non plus. Hein.
C'est peut-être aussi mon tort, en fait.
Moi aussi,
je parle avec Kevin, il me dit en fait que je devrais un peu forcer les choses, mais j'ai vraiment du mal en fait à
aller demander aux gens.
Ouais, mais je peux comprendre.
Il y a la fierté, il y a tout qui rentre en compte.
Mais c'est surtout qu'il faut être honnête, hein, le milieu du foot aujourd'hui, si t'as pas de copinage, c'est très très compliqué. Hein.
C'est très réseauté.
Et ton frère, qu'est-ce qu'il devient? Excuse-moi.
Mon frère, il vit dans le nord, lui, à Lens.
Ok.
Ouais,
tout va bien.
Ben lui, par contre, il cherche pas le soleil. Lui,
non, pas du tout. Non.
Il va à Lens chez notre ami Florian Sotoka.
Okay.
Il est bien là-bas et il profite aussi de la vie.
Ok, et le foot, ça l'intéresse plus non plus?
Non, pas du tout. Non, il a totalement raccroché, même de loin, non, ça l'intéresse pas.
Écoute.
Bon, en tout cas,
Wilfried, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé cette interview, d'avoir partagé ce moment avec nous. Ça fait du bien, ça change parce que on va pas se mentir, on a souvent des joueurs que les supporters ont adoré, que ça s'est bien passé, etc. C'est une réalité.
Bien sûr,
là, d'avoir un joueur qui a un œil extérieur, qui a un parcours aussi assez atypique, ça fait du bien et je trouve beaucoup de maturité, beaucoup de lucidité sur ton passage. En tout cas, c'est un réel plaisir.
Ça fait vraiment plaisir de t'avoir eu, Wilfried, dans l'émission. Je te remercie encore vraiment pour tout.
Un peu de changement par rapport à vos invités d'habitude.
Non, mais c'est intéressant.
J'ai pris de la bouteille aussi, donc je suppose que les mêmes supporters qui pouvaient entre guillemets me cracher dessus, eux aussi ont pris de la bouteille et puis on voit les choses différemment aujourd'hui.
Disant
qu'un joueur, c'est pas forcément qu'un joueur de foot.
Exactement.
Il y a aussi un être humain qui peut être blessé et touché.
Et sa famille surtout.
Et c'est très important ce que tu dis, et je pense que t'as vraiment en plus été blessé à l'époque, et le fait de t'entendre réagir de cette façon-là, je trouve que c'est d'autant plus respectable de ta part. Et franchement, un grand, grand merci à toi, Wilfried, de nous avoir accordé du temps.
Merci beaucoup, Wilfried.
Bonne fin de saison.
Merci également à vous aussi.
À bientôt.
Prends soin de toi. Salut.
Au revoir.
Salut.
Tu sais à qui je pense, là, maintenant?
À qui?
Olivier Giroud.
Ouais. Parce qu'il a été décrié dans sa... Bon, alors après, même s'il a une autre fin de carrière. Hein.
Oui.
Mais je suis d'accord avec toi.
Tu vois ce que je veux te dire, c'est compliqué. C'est pour un joueur de se faire siffler par ses propres supporters. Moi, j'ai connu ça. J'ai pas moi personnellement. J'ai des copains à moi, par exemple Sébastien Piocel à Bastia. Il s'est fait.
Sébastien Piocel.
Voilà, c'est un mec.
Quel joueur.
Nantais aussi, formé à la Nantaise, ouais. Tout ça.
Quel joueur.
International.
Consultant RMC qui
ouais,
se.
Bah,
qui...
Lui, à un moment donné, il s'est fait prendre en grippe par les supporters corses. Tu le vois à la fin, il est à terre, quoi. Dans le vestiaire, il pleure, le mec. Tu vois ce que je veux dire? C'est, franchement, ça fait de
c'est
la peine.
C'est l'humain qui pleure,
ouais.
C'est...
Ouais, tu vois, après, il sort, il y a les enfants qui pleurent, il y a pourquoi papa, tu sais, ils comprennent pas,
bah ouais,
tu vois. Donc,
non, mais c'était,
on sait pas, les supporters savent pas l'impact que ça peut avoir. Après, oui, tu parles d'argent, tu me parles de, mais là, on est en Ligue 2, on n'est pas des, y a, c'est pas des stars, c'est, tu vois. Je peux comprendre l'attente des supporters qui est grande, mais aussi, il faut prendre en considération aussi que, comme l'a très bien dit Wilfried, il y a l'humain qui rentre en compte, il y a la famille qui rentre en compte et ça peut faire des dégâts qui sont irréversibles des fois.
À l'époque, il faut savoir deux choses. C'est que la première, c'est que quand tu discutais avec quelqu'un au club à l'époque, quand il parlait de Wilfried Dalmat, il te parlait de Wilfried Dalmat comme quelqu'un qui ne voulait pas forcément travailler. Mmh. Voilà. Donc, toi, t'es supporter, t'es jeune.
Ah non, mais je suis.
T'es con. Non, mais je vous explique pourquoi. T'es très con. T'es très très con.
Non, faut dire.
Et à savoir qu'à l'époque, chez les anciens supporters, c'était les premiers à dire, mais c'est bon, arrêtez de. Ok, on le trouve pas bon. C'est faux, parce qu'il faut appeler ça comme
ouais,
ça. Ok, on le trouve pas bon, mais c'est complètement débile ce que vous faites d'aller au centre d'entraînement comme il en a parlé. Moi, je m'en souviens très très bien de cette action-là. Thierry Debesse qui intervient avec Kevin Hachi et voilà. Et mais c'est, voilà, c'est parce que du coup aussi le club à l'époque n'a pas fait le
lien.
Ah,
manière,
je trouve ça dommage.
Un joueur comme ça, s'il est tombé dans un fossé entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas tout qui a été fait non plus pour l'encadrer.
Il me l'a dit en off, j'ai été fautif parce que j'étais jeune.
Mais il le
reconnaît, pas donné
mais
tout ouais, ce qu'il y a.
Oui.
Moi, je le dis parce qu'en tant que supporter, et voilà, on était très jeune et très con. Et que du coup, on pense pas à l'être humain. Nous, ce qu'on voyait, c'était qu'on voulait des résultats, qu'on nous a vendu une équipe avec des Gaël Danic, des Wilfried Dalmat, et qu'on allait être dans le top 3 et qu'on allait monter en première division. Et que c'est comme ça qu'on nous a vendu.
Et la seule chose qu'on a eue, c'est un homme qui était blessé, en fait.
Mais c'est ça. Mais comment tu peux accepter au final?
23 ans, c'est pas évident.
C'est blessé.
Vraiment,
comme il disait, tu passes de Nantes à Marseille et t'arrives à Grenoble.
Mais moi, je pense qu'on le, malheureusement, je lui ai pas dit, parce qu'il nous écoute, voilà, mais moi, je pense qu'on lui a niqué sa carrière. Concrètement, moi, je le dis.
Il aurait peut-être pas eu la carrière qu'il a eu.
Il a fait son choix. C'est son choix. Faut pas oublier ça. C'est lui qui décide de venir à Grenoble. Personne lui oblige déjà. Donc,
on aurait pu
aller de là. Il a fait un mauvais choix qui a été préjudiciable pour la suite de sa carrière. Ok, mais là, de remettre en faute le GF38 entier.
Tu peux pas.
Non,
je parle d'un ensemble. Je dis pas le GF38. Je parle les Grenoblois en général. On lui a niqué sa carrière.
Non, après, c'est une.
Et après, c'est son choix, lui, je suis d'accord avec toi.
D'accord. Après que ça se passe mal, ça aurait pu très bien se passer, qu'il soit là, qu'il flambe et qu'il remonte en Liga. Après, c'est un risque qu'il a pris, parce que quand tu joues, tu es en Liga, même si tu joues pas, tu restes dans un effectif de Liga. De là à venir, c'est tout à son honneur, hein, parce qu'il se sentait capable, parce que tu as 23 ans, que tu as envie de jouer, tout ce que tu veux. Donc voilà, je pense qu'il a dû passer beaucoup de nuits blanches dans notre région.
Messieurs, après cette interview, pour clôturer notre émission, on va parler vite fait de ce mercato. Massuet, tu voulais revenir notamment sur le mercato.
Ouais, voilà.
Parce que pour moi, il y a un mercato de départ arrivé, mais il y a un mercato aussi de joueurs qui restent.
Oui. Ah oui, c'est clairement ça. J'ai écouté vos dernières émissions, même si j'étais couché, vos très belles émissions dernièrement, les gars. Je suis au courant de certaines choses que vous ne pouviez pas forcément savoir. À savoir que déjà, je voulais parler d'Adrien Monfray.
Ah, Saint-Étienne.
Les contacts avec Saint-Étienne étaient bien établis. Savoir si le club avait eu la demande avant, pas avant, etc. En tout cas, l'agent du joueur était très très au courant des contacts, que Adrien Monfray était chaud pour partir à Saint-Étienne et qu'effectivement, il a été bloqué. Donc ça, c'est une chose. Et que ça ne l'empêche pas aujourd'hui de se mettre à 100% pour le GF38.
Ah, tu...
Bloqué par le GF38, donc.
Ouais, mais son désir de partir, ça m'a...
Ça te choque, toi?
Ouais.
C'est à Saint-Etienne, c'est un grand club, belles infrastructures.
Même.
Je sais pas.
T'es en fin de carrière, peut-être lui donner trois fois. Ah, mais lui donner peut-être trois fois ce qu'on lui donne.
Ah bah c'est même sûr.
Ah bah voilà, c'est, non, c'est pour ça, c'est en fin de carrière, t'as 32 ans.
On est sur des salaires.
Finir la saison et partir à l'étranger. Je suis désolé. Avec les saisons qu'il fait, tu prends ses DVD.
Je suis d'accord avec toi.
Moi, même si je suis pas agent,
tu peux signer un contrat de plus un.
Voilà, je le fais signer 2 ans ou 3 ans et prendre une lettre d'impôt à l'étranger. Voilà. Moi, c'est ça qui me chagrine, pas qui me chagrine, mais qui me surprend un peu, le fait que lui voulait partir, que le fait que Saint-Etienne le veuille, je le comprends. Le fait que Grenoble le bloque, je le comprends. Mais le fait que lui, son désir de. Voilà, ça me surprend.
Alors, c'est pas son désir, c'est que les contacts ont été établis et que si le club, si le GF38 avait dit oui, il partait.
Ok.
Voilà. Bon.
D'accord.
Donc il n'a pas fait de forcing, rien du tout.
D'autres...
Franck Bambock, du coup.
Oui, effectivement, on l'a entendu sur l'Italie, d'ailleurs.
Réal, voilà, donc pas l'Italie, l'Espagne.
C'était l'Espagne, pardon.
Deuxième division, donc deuxième division espagnole.
Ouais, mais bon, c'est déjà un bon niveau.
C'est réel. Du coup, c'est bien des contacts qui sont établis. Pour moi, j'ai pas de certitude. Les contacts donc sont également établis pour sa fin de contrat en juin. Mmh. Comme disait Fred, il y a certainement un plus un. Alors moi, je mets bien des guillemets parce que pour moi, ce plus un, j'ai aucune certitude qu'il existe vraiment et dans quelles conditions ça existe. Voilà. Pour moi, Franck Bambock sera partant à la fin du mercato, à la fin de l'année. Je trouve ça dangereux. Je ne vais pas dire que je trouve ça dommage, mais je trouve ça dangereux pour le club. Pourquoi ? Parce qu'on n'a qu'un seul 6. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas été en mesure, je le reviendrai après dans les arrivées, on n'a pas été en mesure d'embaucher un 6. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, après. Concernant Bamba, les chiffres qui ont été, les noms qui ont été évoqués sont complètement irréalistes. Et il n'y a jamais eu 7 millions qui ont été posés sur la table pour...
On m'a dit 3, moi.
Ouais, moi aussi, on m'a dit 3, mais il y a eu
un 3, tu réfléchis, hein, c'est 3 fois ton plus gros transfert.
Il y a eu un papier du Dauphiné Libéré qui a annoncé 7 millions de nos...
Mais 7 millions, on prenait un jet privé, on l'emmenait tous.
Je pense que mes chers collègues...
Il prend le vélo et l'emmène.
Mes collègues du Dauphiné Libéré, je pense qu'ont été induits en erreur. Sur le nombre exact, après on parle pas des options et de tout ce qu'il y a derrière, des bonus, mais on parle effectivement de 3 millions plus d'éventuels bonus.
Déjà, c'est beaucoup, hein, 3 millions.
Bah pour non. Ah, aujourd'hui, bah, Bamba, 3 millions,
c'est
3 millions
fois,
quand même.
C'est 3 fois ton plus gros Moussa Djité.
Donc moi ce qu'on m'a dit pareil, j'en suis pas sûr à 100%, ce qu'on m'a dit c'est qu'à 5 millions il partait.
Bah moi j'aurais dit oui.
Voilà. Enfin, donc moi j'aurais été d'avis avec 5 millions, moi j'aurais fait partir Bamba. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est simple, c'est qu'avec 5 millions d'un Bamba, tu fais venir deux bons joueurs de Ligue 2. Sur 2 ans et demi.
Non, mais si réellement il y a eu 5 millions, il l'aurait laissé partir.
Et je vous explique,
même 3, je pense.
Je vous explique pourquoi sur 2 ans et demi, aujourd'hui, un bon joueur de Ligue 2, c'est 30 000 par mois.
Oui.
Si tu fais ton calcul sur 2 ans et demi, voire 3 ans, ça fait un peu plus d'un million.
Oui, avec tout ce qui te rapporte.
Voilà, donc du coup, tu avais ton calcul, il était vite fait. Sauf que le club a préféré jouer la sécurité. Oui ou non, on verra bien à la fin de la saison. Parce que quoi qu'il arrive, il partira à la fin de la saison. Déjà, mais on verra pour le prix, quel prix.
C'est déjà un très beau message au niveau des finances du GF38 qui peut se permettre de refuser de garder des joueurs qui ont des masses salariales qui sont assez élevées, qui ont une valeur haute au niveau au marché de transfert, ça déjà c'est un très très bon signal.
Donc il multipliait par 3 voire 4 son salaire, ça c'est une certitude.
Non mais voilà, c'est un très très beau signal. Tout comme le fait que Jordi Gaspar soit resté également, hein, pour moi c'est un très très bon signal, c'est qu'on peut se permettre de garder des joueurs à forte valeur et qui ont une masse salariale pour nous. Non, tu l'aurais pas gardé Jordi Gaspar ?
Non, moi genre. Je lui aurais proposé peut-être quelque chose, mais aujourd'hui dans son état d'esprit, il est clairement partant à la fin de la saison. Je sais pertinemment qu'il y avait des contacts qui étaient établis avec un club de première division pour Jordi Gaspar, mais il est toujours là. Les contacts étaient établis pour le mercato hivernal. Il n'est pas parti. Il est en fin de contrat en mois de juin. Au mois de juin, il n'y a plus de Jordi Gaspar.
Après, excuse-moi, pour revenir sur Bamba, je pense qu'à 3 millions, on l'aurait lâché.
Je pense. Franchement, tu peux pas refuser.
T'as Bamba, t'as Tel, t'as.
Ouais, franchement, moi je pense
t'as
que
Faiton, t'as Faiton.
3 millions, c'est énorme pour un club comme le GF38.
Est-ce que. On sait pas.
Non. Quelle certitude on a
là, aujourd'hui, là, pour là, moi, il vaut clairement 5 millions.
Ça, c'est te dire à toi. Mais est-ce que aujourd'hui, vaut mieux pas prendre 3 4 voire 5, tu sais pas l'année, à la fin de saison s'il va, voilà.
Ah, ça je suis entièrement d'accord.
Cette valeur
là, c'est un pari qu'on a
depuis ce que je savais. Et si on remarque bien, c'est, je sais pas si c'est lié ou pas, mais ses prestations depuis le mercato,
elles sont mauvaises.
Elles sont vraiment en dessous. Mmh. En dessous de ce que, tout ce qu'il nous a proposé avant.
Et je pense ça que joue, psychologiquement, il est atteint.
On en parlait, excuse-moi. C'est que non, il n'y a pas de souci, c'est comme Tchapchat. C'est depuis, depuis sa prolongation de contrat, c'est que l'ombre de lui-même.
Ouais, c'est vrai,
donc,
ça.
Voilà. Après, je pense que c'est un message fort du GF 38, déjà j'ai, au niveau, au plan financier et surtout dans une optique de jouer le haut du classement.
On est d'accord.
Messieurs, c'est bientôt, c'est la fin de notre émission. Vas-y, Massuette.
Donc, juste revenir, ouais, je suis désolé, on va essayer de faire vite. Juste parce que Cédric nous a dit qu'il parlait de Gersbach tout à l'heure. Ouais. Il voulait avoir notre avis, sur Gersbach. Que pensez-vous du départ de Gersbach? Gagne-t-on au change avec son remplaçant? Moi, le seul truc que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, Gersbach, tu le vends à 6 mois de son contrat, tu le vends 300 000 euros. Je trouve que c'est bien vendu.
Je sais pas, je sais que c'est un des plus gros salaires. On le vend 300 000 euros. On recrute un joueur qui, sur le papier, semble être de bon acabit.
Il lui restait un an de contrat ?
Non, il lui restait 6 mois.
6 mois ?
Donc il partait libre à la fin de l'année, concrètement.
C'est un joueur qui part en MLS.
Son souhait, c'était retourner dans un pays où il parlait l'anglais.
Donc je pense que, je pense que c'est un choix qu'il fallait. Alors.
Financièrement, qu'il fallait faire.
Par contre, ils ont été très bons de prendre quelqu'un pour le remplacer. Parce que ça aurait pu faire chou blanc et on n'est personne pour le remplacer.
C'est pas donné un arrière gauche en plus.
C'est pour ça que je te dis ça. Je pense qu'il a été lâché parce qu'on avait quelqu'un de sûr derrière. En l'occurrence, Mendy.
C'est bien joué de la part de Max Martin.
Je pense
déjà
que c'est très très bien joué de la part
après,
de Max
Martin. Après, pour mon avis à moi, Gersbach, je l'ai trouvé à chaque fois très bon.
Footballistiquement,
il a une belle patte gauche, travailleur. Discret, défensivement plus que correct. Sur les coups de pied arrêtés, c'était une plus-value de fou. Maintenant, économiquement parlant, je pense que j'ai pas trop choix. Donc,
s'il y avait un choix à faire, ils l'ont fait.
Et franchement, je pense qu'ils ont eu raison. Après, moi, je trouve ça regrettable. Mais c'est le football.
Voilà. Messieurs, c'est la fin de notre émission. Rendez-vous, non?
Je peux pas dire, mais il y a des cadres, un cadre, en l'occurrence de l'effectif, qui était contacté par un club de L1 et qui a refusé. Voilà, également.
Ah non, maintenant c'est.
Attends, tu dis qui c'est?
Voilà, non, c'est soit.
Ah, tu peux pas dire qui c'est?
Non, je peux pas dire.
Il y a un cadre de l'équipe, répète ta phrase.
Mais je ne dirai pas.
D'accord.
Je ne dirai rien.
Mais je vais chercher jusqu'à ce moment.
Bah, tu pourras chercher.
Attends, c'est important. Qui a refusé? Le joueur ou le club?
Non.
Le joueur.
Le joueur a refusé un club de Ligue 1.
Voilà. C'est tout à son
un cadre de l'effectif.
Mais
un cadre,
c'est déjà...
Non, je ne dirai pas, mais déjà un cadre, on sait que c'est pas Adrien Monfait, c'est Saint-Etienne.
Et maintenant,
après, des cadres, il n'y en a pas 50 000.
Bah, si, on a quelques-uns.
Bah, il y a Brice Maubleu, mais c'est pas lui, il partira jamais du GF 38.
Non, il y a quelques cadres.
Voilà.
Il y a quelques cadres.
Okay. Et on n'a pas offert nos places.
Non, mais les places, on les offrira cette semaine.
On les offre cette semaine sur la page Le Foot Time Show. En tout cas, merci à tous. On donne rendez-vous mercredi soir.
Et samedi. Grosse semaine.
À Vierzon, on espère pour la qualification quarte finale de Coupe de France à Pontchal PSG au Stade des Alpes. C'est la folie. Enfin, non, mais la vérité, c'est ça. Ouais. Imagine le tirage. On tire le PSG chez eux là-bas au Parc des Princes. Mais déjà, je suis fou.
Déjà, faut que Paris égale Marseille.
Déjà, faut. Mais c'est pas grave! Marseille, on les reprend.
Moi, je préfère un taper à un Lille ou un Lyon. Lyon, mais un Lille ou machin.
Si, Lyon, Lyon, ça peut être un très gros match au Stade des Alpes. Ça peut se castagner entre les clubs de Supa. Ça peut être génial ce match.
Lyon-Grenoble.
Ouais, ça peut être génial. Franchement. En tout cas, merci à tous. Restez sur les ondes de News FM. On se retrouve la semaine prochaine entre 19h30 et 21h.
Ciao, bisous.